I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pokémon écarlate et violet, Petiment, Somerville et plein d'autres choses, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume toutes les semaines toute l'actualité du jeu vidéo sur PC, console, mobile, les news de l'industrie, des analyses absolument sans pareil de la part de mes invités. Moi, je dis des trucs un petit peu au hasard, mais mes invités sont malins, intelligents, en plus ils sont tous beaux, c'est incroyable, je ne sais pas comment ils font. Merci à vous deux d'être là. On a d'une part Julie Le Baron, comment allez-vous, mademoiselle ?
Mais ça va très bien, et vous ? Ce vouvoiement m'a un peu déstabilisé.
Oui, m'a moi-même déstabilisé, parce qu'ensuite j'ai dit « Attends, c'est mademoiselle ou madame ?» pendant que je le disais, et je crois que c'est mademoiselle.
On ne dit plus mademoiselle.
Ouais,
plus,
je crois qu'on dit
oui,
plus
c'est
mademoiselle
vrai,
en plus. Ouais. C'est pas... Bon, alors madame le baron, comment allez-vous aujourd'hui ?
Bah, écoutez, ça va très bien, je me porte à merveille.
Et on a également, en plus de Julie, Lou Lassina Faubert, la personne qui est, je pense, la plus passionnée de Pokémon de ma Twitter timeline, et qui en plus a le nom dont je suis le plus jaloux. Moi, j'aime bien mon nom de famille, hein, Béja, mais Lassina Faubert, ça fait quand même classe.
Moi, c'est plus rapide Béja à écrire quand même.
C'est plus rapide. Ça fait un peu, Béja, c'est bon, arrête de m'emmerder, hein. C'est fini maintenant. Comment vas-tu, Lou ?
Bah, ça va très très bien, très contente de retrouver Julie pour discuter de jeux vidéo.
La dernière fois, je me demande si c'était pas pour parler de Arceus que t'étais venu nous voir la dernière fois.
Écoute, c'est possible. Honnêtement, je sais plus trop.
Ouais, ça fait peut-être un moment. Arceus, c'était le début de l'année. En même temps, je dis ça fait un moment.
Ouais.
Bon, on va en parler, mais ça fait un moment. C'est deux gros Pokémon dans l'année. Ils carburent chez The Pokémon Company. Donc. Voilà. Pardon, je t'ai interrompu.
Ah non, mais vas-y, je disais juste qu'elle va être une sacrée année. On verra les ventes surtout, voir s'ils vont réussir à détrôner Splatoon 3, qui était quand même qui a fait un démarrage record là.
C'est sûr. Bah écoute, on va voir. Tu l'as testé pour Game Cult et tu vas donc nous en parler un petit peu. Et pour West France, évidemment. Comment oublier West France. Et Julie a aussi joué à deux jeux qui font un petit peu de bruit en ce moment. Pas forcément, je vais pas déflorer, peut-être
oui,
que
vrai.
Je sais pas, on va voir, c'est Somerville et Petiment, on va en parler dans une seconde. Avant ça, je voudrais remercier le producteur de cet épisode, Chablex, qui est la personne qui est responsable pour cet épisode. À chaque fois je dis ça, je sais pas si ça leur plaît ou pas, il est responsable de tout ce qui est dit dans cet épisode, ou en tout cas, c'est grâce à lui qu'on peut le dire. Merci à toi, Chablex. Si comme le formidable, l'incroyable, qui lui aussi est extrêmement beau, Chablex, vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeu. Alors, on va parler tout de suite des sujets, des infos importantes à retenir de la semaine, avec un tout petit bémol quand même. Il n'y a pas énormément d'infos importantes, on va dire. Hein. On va dire ça comme ça, j'ai un petit peu raclé les fonds de tiroir. Mais on va rapidement passer sur deux sujets que j'ai sélectionnés, qui sont, à mon sens, les choses les plus intéressantes. La première, c'est la révélation des nominés aux Game Awards, qui, qu'on le veuille ou non, est devenue un petit peu la cérémonie des récompenses du jeu vidéo. Et on a donc les jeux, alors il y a toutes les catégories, hein, il y en a vraiment plein, mais la catégorie bien sûr que tout le monde regarde et à laquelle tout le monde s'intéresse, c'est les GOTY, les Game of the Year. Et il y a six jeux qui sont nominés.
Six, ouais.
A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray et Xenoblade Chronicles 3. Je vais même pas commenter. Julie, qu'est-ce que tu penses de ces nominations ? Est-ce qu'elles te paraissent justifiées, appropriées ? Dis-moi.
Moi, elle m'étonne, honnêtement. Enfin, après, honnêtement, par exemple, je ne m'attendais pas du tout à y trouver Stray, qui est pourtant un jeu que j'ai adoré cette année, qui fait partie un petit peu, moi, de mon petit panthéon personnel de l'année. Mais c'est vrai que ça fait drôle de le voir à côté de gros AAA comme Elden Ring ou God of War, quoi. Et bon, bah, du côté d'Elden Ring et God of War, c'est pas très, très surprenant. Pareil pour Horizon. Mais pareil, enfin, vraiment étonné, ouais, de voir deux nominés français, quoi. A Plague Tale, je m'y attendais pas non plus. Mais ça me paraît être des jeux importants cette année, donc pour moi c'est justifié. Ouais.
Stray, j'avais oublié qu'il était français, c'est effectivement, comme on en parlait avant l'émission, c'est Blue 12 Studio, et édité par Annapurna, et c'est un studio français. Alors, Plague Tale, on le sait, hein, c'est Asobo, mais Stray aussi. Et du coup, deux studios français représentés dans les nominés du Game of the Year, ça fait un petit cocorico à l'intérieur quand même.
Lou, ouais, complètement. Pardon. Ah oui, pardon. Non, juste pour revenir, excuse-moi Lou, vite fait sur le cas de Stray. En plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même un tout premier jeu pour ce studio qui a été fondé vraiment pour ce projet. Et voir qu'il est nominé, ouais, je trouve ça vraiment ultra, ultra chouette pour eux, quoi.
Ouais, c'est assez incroyable. Lou, ça t'évoque quelque chose dans cette liste ?
Écoute, comme Julie, moi, le fait de voir Stray aux côtés de ces gros jeux qui sont quand même le gros AAA, très fort, très costaud, très musclé, pour la plupart, c'est assez marrant. La sélection n'est pas si étonnante que ça pour le reste. C'est que des jeux que j'ai pas fait, que j'ai pas eu trop le temps de faire. Et voilà, je trouve que ça manque un peu de diversité, peut-être. Heureusement qu'il y a Stray, j'ai envie de dire, justement. Pour
oui, c'est ça, je suis contente que ce soit.
Sinon, c'est vraiment très. Très attendu, en fait, au final. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Effectivement, ce sont des bons jeux, mais peut-être qu'il faut reconsidérer aussi ce qu'est un jeu. Enfin, voilà. Ça manque de surprise. Je trouve qu'on on se laisse trop diriger, justement, par ces gros jeux très attendus, sans retirer leur qualité. Mais il faudrait peut-être un peu plus ouvrir ces horizons, sans mauvais jeu de mots.
Ouais, c'est sûr que c'est toujours la question, mais quand on parle d'un jeu qui atteint un statut de jeu de l'année, c'est un jeu qui fait le consensus, donc c'est assez surprenant, enfin c'est toujours un peu surprenant d'y trouver des jeux qui sont, justement, qui sont pas des jeux conçus pour plaire un petit peu à tout le monde, et en l'occurrence, l'année dernière c'était d'ailleurs, le jeu de, comment il s'appelle ? Tout quelque chose.
It Takes Two,
voilà.
Qui était super.
Qui avait gagné, qui était surprenant. Les Game Awards, l'Académie des Game Awards a montré qu'elle peut surprendre. Là, on a Elden Ring, qui n'était pas, a priori, avant sa sortie, quelque chose qu'on aurait pu imaginer pour jeu de l'année. Enfin, il y a plein de gens qui considèrent que c'est leur jeu de l'année, mais les jeux FromSoft, à chaque fois qu'il y en a un qui sort. Mais ça ne fait pas toujours le consensus. Mais là... Même Plague Tale, je trouve ça surprenant. Stray, c'est très surprenant. Et puis Xenoblade Chronicles 3, c'est... Là encore, il y a plein de gens qui l'adorent. Mais c'est... Moi, à mon avis, ce que ça montre surtout, c'est qu'au-delà des garanties, Elden Ring, God of War, Horizon, il y a plein de jeux qui auraient pu y être. Là, je ne sais pas si j'ai les trucs en tête, les noms en tête, mais il y a plein de jeux. Je ne sais pas, Sifu, par exemple, il aurait pu tout à fait... Je pense qu'il est à peu près au niveau de certains des jeux présents. Et donc, ça, pour moi, ça montre qu'il y a eu trois énormes jeux cette année. Et le reste, c'est un petit peu à la carte en fonction des préférences de chacun.
C'est ça. Après, je dirais que Stray a eu un énorme retentissement avant même... qui sortent, et il était ultra attendu. Enfin, c'était une hype pas possible.
L'effet des chats, quoi.
Parce que c'est l'effet chat, ouais. L'effet chat pour lequel la plupart des joueurs sont venus, après tout. Enfin, autant pour le chat que pour l'univers un peu cyberpunk. Mais c'est vrai que, ouais, dans ce sens-là, oui, je pense qu'il avait un côté un peu plus fédérateur que Sifu, qui reste un jeu que je trouve très chouette.
Une autre chose que je remarque quand même, c'est qu'il n'y a pas de jeu Microsoft. Alors, vous allez me dire... il y a un jeu Xenoblade, c'est Nintendo... Du coup, il y a un représentant de Nintendo, il aurait pu y en avoir d'autres. Il y a des jeux Sony, God of War, Horizon, mais il n'y a pas de jeux Microsoft. Et ça pique un peu quand même. Autant les développeurs de Blue 12, quand ils ont vu leur nom arriver, ils ont dû sauter au plafond. Autant j'imagine que dans leur coin, les gens de Microsoft et des 42 studios Microsoft ils doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et clairement, il n'y a aucun candidat qui pourrait prétendre à une présence même dans les jeux nominés. Donc, ça appuie encore un petit peu, je trouve, sur les problèmes de Microsoft et le fait que bah, ils n'arrivent pas à sortir de jeux, même si, évidemment, il ne faut pas de crunch, il faut de machin. Il ne faut pas de machin, mais bon, à un moment, il faut des jeux quand même, quoi. Bon, il y a plein d'autres...
Franchement, ouais. Dépenser autant de thunes pour acheter des studios et pas être nominé, ça fait quand même mal, hein, j'ai envie de dire.
C'est ça, c'est ça. Alors, on espère tous que... il y a une petite araignée qui est en train de monter sur ma lampe, gâteau. Bon, elle non, ça va, elle est toute petite. Je ne vais pas interrompre le stream.
Attention. Mais,
oui, on peut espérer qu'il y aura des jeux l'année prochaine. Enfin, Starfield arrive dans les mois qui viennent. Mais oui, ça doit faire quand même un petit peu mal. Il y a plein d'autres catégories, hein, comme d'habitude, dans les Game Awards. Quand je disais 42 studios, bah, il y a 42 catégories. C'est vraiment, on a l'impression qu'il faut que tout le monde puisse avoir un prix. Et puis, il faut plein de prix sponsorisés à donner avant les awards eux-mêmes. Une petite note pour dire que parmi les créateurs, le créateur de l'année, alors il y a plein de noms que je ne connais pas comme d'habitude, mais il y a quelques-uns que je connais, mais il y a aussi Nibelion, dont on parlait il y a quelques temps. Vous connaissez peut-être ce compte Twitter qui résumait les news et qui a disparu, qui a décidé d'arrêter tout ce qu'il faisait suite à son échec de monétisation de son activité sur Twitter. Je trouve que c'est gentil de la part de peut-être que c'est Jeff Keighley directement ou le comité, de juste lui lever un petit peu leur chapeau en disant « si, tu es bien un créateur et on t'aime tellement qu'on aime tellement ton travail, ce que tu faisais, oui, c'était du travail, qu'on te met dans les créateurs de l'année ». Je trouve ça plutôt sympa, mais...
Oui, moi aussi, j'avais tiqué ouais, sur sa nomination. Ouais. Je trouvais ça chouette qu'il le fasse. Mais dans les autres catégories, un autre truc, je suis très contente de voir aussi que Immortality, qui est un jeu que j'ai adoré cette année, a plusieurs nominations, dont meilleure actrice pour Manon Gage, je ne sais plus comment on prononce, mais, qui livre vraiment une performance exceptionnelle, je trouve, dans Immortality.
Ouais. Il y a Immortality, effectivement, et puis il y en a quelques autres qu'on pourrait évoquer. Je dirais juste, pour conclure sur les jeux de l'année, nous, on fera notre épisode jeux de l'année, ça va être avec une foule immense vers la fin de l'année. Mais d'habitude, j'essaye de laisser mes estimations après la fin des Game Awards. Enfin, là, je crois qu'il n'y a aucun doute sur le gagnant de l'année. Hein. Je crois qu'Elden Ring va gagner avec une majorité de toutes les voix. Et c'est vraiment une performance pour From Software et Bandai de faire l'unanimité comme ça. Mais je ne crois pas que God of War puisse, qui est le seul potentiel candidat pour le détrôner, moi, je ne pense pas qu'il y arrivera. Mais bon.
Après, c'est intéressant de voir que les deux sont nommés dans le sens où donc vraiment un des grands traits, une des grandes caractéristiques d'Elden Ring, c'est de jamais prendre le joueur par la main. Et je pense à God of War où on a Atreus qui, en permanence, nous dit quoi faire. Et ça, à voir ce que les gens préfèrent.
Alors, s'il y a des choses... On va en parler dans une seconde, parce que j'ai passé un petit peu plus de temps sur God of War, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement...
Avec plaisir, ouais.
Donc voilà pour le premier sujet. Le deuxième, c'est Blizzard qui quitte la Chine. C'est une annonce qui est un petit peu surprenante. J'ai vu que certains me disaient oui, on sentait les prémices ici et là. En fait, le partenariat de 14 ans avec Tencent prend fin et il n'est pas renouvelé. Et du coup, ça veut dire que les services... En fait, ce qui se passe en Chine, qui est un énorme marché pour tous les développeurs de jeux vidéo, c'est qu'un développeur ne peut pas opérer en Chine sans le partenariat d'une société chinoise. Et donc, on a NetEase et Tencent, qui sont les deux énormes boîtes, qui gèrent beaucoup de choses. Il y a d'autres boîtes aussi, mais en l'occurrence, c'était NetEase qui gérait les services Blizzard en Chine. Et c'est eux qui opèrent véritablement les services et les serveurs des jeux en Chine. Donc, le fait que le partenariat prenne fin, ça veut dire que, très concrètement, les serveurs vont s'éteindre. Alors, ils vont conserver les données, visiblement, NetEase, mais les serveurs vont juste s'éteindre et on ne pourra plus jouer aux jeux Blizzard. On parle de World of Warcraft, mais pas seulement. Tous les jeux Blizzard qui sont présents en Chine ne seront plus accessibles. La grande question, c'est est-ce que Blizzard est déjà en train de conclure... Ça sera en janvier 2023. Est-ce que Blizzard est en train de conclure un accord avec quelqu'un d'autre? Évidemment, on pense à Tencent, mais il y a peut-être un autre candidat. Mais c'est quand même, c'est surprenant que Blizzard laisse s'éteindre un partenariat de cette importance, parce que, comme on le sait, ils aiment bien l'argent hein, chez Blizzard et chez les développeurs de jeux vidéo. Et c'est quand même un énorme marché. Ils doivent avoir... Je sais pas, si, est-ce que vous parieriez sur le fait qu'ils sont déjà en train de finaliser un accord avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'ils vont vraiment abandonner le marché? Ça serait étonnant.
Bah, tu l'as dit, ils aiment bien l'argent. Donc, à mon avis, ce qui pourrait les motiver à abandonner ce partenariat, ce serait plus d'argent ailleurs. Mmh. C'est là-dessus que je vais miser, moi. Mais vraiment, je ne suis pas du tout experte en la question.
Je suis surpris qu'ils ne l'annoncent pas à l'annonce de la fin du partenariat. Mais en même temps, comme c'est la Chine, ils doivent se dire... Bon, enfin, qu'on annonce maintenant ou après, on a jusqu'au 24 janvier pour que les gens sachent. Et le seul problème, c'est que je ne sais pas si les données gérées par NetEase vont être transférées au nouvel opérateur. Est-ce que les gens qui jouent à World of Warcraft depuis 14 ans vont perdre tous leurs personnages? C'est possible, je ne sais pas, on verra.
Ça paraît tellement, tellement radical, enfin, vraiment.
C'est clair. Bon. En même temps, même sur World of Warcraft, tu prends la nouvelle extension, t'as un perso niveau max, mais c'est plus la même chose. Je sais pas.
Ouais, c'est pas celui que t'as construit sur 14 ans. Enfin, ce qui est pas forcément le cas. Je veux dire, je pense que les persos vont et viennent. Mais moi, je me dis, en tout cas, oui, si j'avais un compte depuis 14 ans avec mon personnage, je le vivrais très mal.
Ouais, enfin, mais tu m'étonnes.
Mais à la limite même, ça, c'est pas le plus grave. Moi, je me demande si un jeu comme Overwatch, par exemple, où on a acheté des skins, des tonnes de skins. Il y a Heroes of the Storm aussi, il est un petit peu moins d'actualité. Hearthstone, est-ce que du coup, les jeux, enfin les achats que tu as fait en jeu avec le partenariat avec NetEase disparaissent dans ce partenariat-là? Et si les jeux reviennent avec un autre partenaire, est-ce que ils vont devoir, les joueurs chinois, racheter tous les trucs, parce qu'en fait, c'est une autre... je ne sais pas si NetEase va filer les données, ou... je ne sais pas. C'est
toute la question, justement, de la propriété des choses immatérielles hein, qu'on peut acheter, ouais. Donc les DLC, les ceci, les cela. J'achète encore mes jeux sur cartouche, parce que je suis un vieux, mais il y a un petit côté rassurant. Mais justement, je ne suis pas sûr, je connais pas du tout le marché chinois, ni la réglementation de la consommation en Chine. Je suis pas sûr que les consommateurs soient plus protégés en Chine que chez nous, en revanche, de ce côté-là. Donc, il y a peut-être effectivement de quoi s'inquiéter pour toutes ces possessions immatérielles.
Oui, je suis assez d'accord. Bon, à voir, peut-être que Blizzard donnera quelques millions, des gros paquets pleins d'argent à NetEase pour dire, bon, filez-nous les données et puis on se démerde avec les nouveaux. J'aimerais bien savoir pourquoi ça a été interrompu, parce que c'est un tel bordel de changer d'opérateur. Il doit y avoir quand même... Ouais, Julie.
Et je ne sais pas si tu as vu le message de Simon Zhu, président des partenariats, enfin un titre comme ça, qui a fait un post sur LinkedIn, qui est un message particulièrement amer, qui laisse entendre que ça ne s'est pas fait dans des très très bonnes conditions, enfin cette séparation.
Ouais, ce qu'il
où il parle lui-même de son expérience de jeu, en disant voilà, pour toutes les personnes qui ont passé des milliers d'heures... dans les contrées d'Azeroth, c'est terrible ce qui se passe. Et il y a quand même un moment où il précise, c'est terrible, tous les dégâts que peut faire un pauvre type.
Ouais.
Et alors là, va savoir de quoi ça parle.
Il dit, un jour, nous aurons les informations sur ce qui s'est passé derrière le rideau, quoi.
Ouais.
Et les développeurs et les joueurs comprendront encore mieux tous les dégâts que peut faire un jerk, quoi, un pauvre type.
Oui, j'ai traduit pauvre type de manière très arbitraire.
C'était très bien.
Surprise.
C'est quelqu'un du côté de NetEase. Hein.
Oui. Surprise, c'est Elon Musk, en fait, depuis.
Oui, c'est ça, c'était lui.
C'est toujours la faute d'Elon Musk, au final.
Exactement.
C'est ça.
Il a pour tout casser.
Ouais, non, mais c'est vraiment le gros point d'interrogation. T'as raison, Julie. Qui sait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'imagine que c'est pas... Enfin, tous les dégâts qu'un pauvre type peut faire, est-ce qu'il parle de... parce que ce genre de décision se fait pas sans l'accord de Bobby Kotick. Est-ce que c'est Kotick qui a fait ça? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un que Simon Zhu lui-même estime a mis des bâtons dans les roues et que du coup ça a fait capoter des trucs? Est-ce que... Bon, écoutez, un jour peut-être que quelqu'un écrira un livre sur le sujet et ça sera passionnant à lire. Voilà pour les deux petites infos que je voulais retenir de cette actualité. On va passer à nos jeux du moment, les gros sujets, hein, clairement. Avant ça, un petit mot pour vous rappeler quand même que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux et là, vous pourrez décider d'attribuer un petit euro, deux petits euros à l'émission et avoir des bonus absolument incroyables comme des émissions sans pub, sans cette petite partie promo au milieu, avec des time codes, avec des bonus comme les after shows ou des éditos incroyables. Enfin bref, et surtout le plaisir de soutenir les créateurs de contenu que vous appréciez, comme par exemple le rendez-vous jeu. Merci à vous tous et à tous ceux qui le font déjà.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Allez, c'est fini l'attente maintenant. On arrive au jeu auquel on a joué en ce moment. Et surtout, bon, la grosse sortie, on va pas se mentir, la grosse sortie de la semaine, c'est évidemment Pokémon Écarlate et Violet. Et je suis incroyablement heureux que Lou ait accepté de nous accorder un petit peu de son temps pour nous en parler. Donc, comme on le disait, tu l'as testé pour Gamekult et West France, évidemment. Et alors, c'est un Pokémon qui est vraiment un Pokémon, comment dire, important. Je pense qu'on peut dire qu'il est important parce que c'est le premier Pokémon en monde ouvert. Et surtout, et je te donne la parole dans une seconde, j'explique pourquoi il est absolument essentiel. C'est potentiellement le premier Pokémon auquel je pourrais jouer avec mon fils. Donc, je suis très intéressé de savoir de quoi il en tourne. C'est ça qui est important, en fait. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Il faut que je sache si ça serait adapté à mon fils de 4 ans et demi, 5 ans ou pas.
J'étais en train de deviner sur le sujet, effectivement. Tu étais en train de parler, je sens que ça va être par rapport à son fils et je le sentais. Alors déjà, je tiens à dire avant tout que c'est moi qui suis incroyablement heureux que tu aies pu m'inviter pour en parler. Et je vais faire très attention à ce que je dis parce que je suis encore sous NDA. Donc du coup, il faut que je fasse attention à ce que je raconte. Parce qu'évidemment, j'ai terminé le jeu, mais il y a encore des choses que je ne peux pas révéler, évidemment, jusque demain, qui est la sortie officielle.
C'est ça. Ah oui, accessoirement, on le mentionne, la sortie officielle, c'est demain le 18. On est le 17 aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, c'est un jeu important dans la série Pokémon parce que c'est vraiment le virage tant attendu, tant espéré depuis très longtemps. Je crois que je parle du virage qu'on attend de Pokémon depuis les versions X et Y, en fait, qui amorçait déjà une évolution, mais c'était une lente évolution. Et cette fois-ci, ils ont pris un risque qui n'est pas sans conséquences, notamment au niveau de la réalisation, on en parlera plus tard. C'est vraiment, comme d'habitude avec les jeux Pokémon, surtout depuis le passage à la 3D, c'est toujours là où le bât blesse, hein, c'est un petit peu le souci. Mais sinon, au global, c'est une aventure vraiment réussie qui va réussir à exploser les codes classiques de Pokémon sans les trahir. Tu retrouves vraiment le côté traditionnel de Pokémon, tout en inscrivant cet épisode dans la modernité. Comme ça, j'ai réussi à faire le tradition et modernité, le truc le plus naze possible. Mais c'est vraiment ça cet épisode. Et c'est assez incroyable. Surtout après un légende Pokémon que j'ai bien aimé.
Arceus.
Exactement.
Je suis avec toi. C'était terrible de se dresser face à la foule qui disait mais ce jeu est moche. Qu'est-ce que vous lui trouvez?
Objectivement, il est moche. Ça vraiment, il est moche. Je lui ai mis 6 sur Gamekult. Je sais qu'on avait... On m'a trouvé sévère, en plus, même en interne à la rédaction. Et tout, quand même, 6. Bah, écoute, non, franchement, non, je trouve que... Voilà. Le monde cloisonné, tout ça. C'était une fausse promesse, je trouve, de monde ouvert, avec un monde qui était finalement très, très plein, les cartes des légendes Pokémon. Et puis, ce côté cloisonné, et c'était très...
Oui, parce que tu l'as dit, t'as dit révolution, évolution, machin, mais je pense que la plupart des gens le savent. Ce dont tu parles, c'est l'aspect monde ouvert qui était esquissé dans Arceus et qui, dans Écarlate et Violet, est un vrai, vrai monde ouvert. Je le précise parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas pourquoi tu parles de révolution.
Oui, et c'est une question que je me posais, parce que c'est vrai que Arceus, un des gros problèmes, c'est que le monde paraissait, malgré toutes les qualités du jeu, le monde était... tristement vide, quoi. Et je sais pas si c'est le cas ici.
Alors, au-delà du monde ouvert, et j'y reviendrai aussi, l'autre aspect révolutionnaire, c'est le côté délinéarisé, si on peut dire. C'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que c'est en monde ouvert aussi. Enfin, les deux vont ensemble, mais c'est très important de ne pas oublier ça, parce que la tentative de monde ouvert, par exemple, dans Légende Arceus, était très linéaire, beaucoup trop linéaire et beaucoup trop cassante. Et alors, pour revenir du coup sur la comparaison des deux régions, c'est-à-dire que tu avais donc 5 régions dans Légende Pokémon qui étaient relativement homogènes, en fait. Tu avais la côte, qui est que des trucs de côte, la plaine qui était hyper plate, avec très peu de grottes, tout ça. Et là, il faut vraiment le voir comme une vraie région, extrêmement variée, avec des forêts, des lacs, des étangs, des ceci, des cela, et des vraies grottes à l'ancienne où tu te perds, etc. Des recoins, des passages, du relief. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir avec la platitude et l'ennui qu'on pouvait avoir un petit peu malgré tout dans Légende Pokémon, avec toute l'affection que je peux porter à ce jeu. Là, on a vraiment passé quelque chose en termes de level design qui est pour moi vraiment extrêmement intéressant. Et pour pouvoir explorer ce monde, donc tu commences tout au sud. Alors je le précise, le monde est inspiré de la péninsule ibérique. Hein, donc on commence au sud de... Donc Madrid est à peu près, on va dire, au centre-milieu, enfin milieu un peu plus vers le bas de la carte. Donc là, l'équivalent, c'est Messaledo. Ou Messaledo, Messaledo, je confonds toujours, j'arrive jamais. Donc tu commences au sud, en fait, de la capitale. Et tu peux explorer, en fait, vraiment... dans l'ordre que tu veux, les missions qu'on te donne. Tu as 3 objectifs principaux qui ne sont pas très originaux pour le coup, à savoir la conquête des arènes, donc la Ligue Pokémon, quoi, les 8 arènes plus le Conseil des 4, la team des méchants, donc la team Star cette fois-ci, et puis la quête des Pokémon dominants, donc des Pokémon qui sont plus gros et plus puissants, et qui avec des combats un petit peu surprenants. Et ben, ces quêtes-là, en fait... Déjà, tu peux choisir celle que tu fais en priorité, tu peux choisir de faire les 3 en parallèle, et tu les fais dans l'ordre que tu veux, de manière théorique, hein, parce que les niveaux sont prédéfinis. Il n'y a pas de level scaling, malheureusement, ça c'est aussi un petit truc qui est dommage. Mais en même temps, la géographie de la carte, comme tu commences vraiment à une sorte d'extrémité, en gros tu pars à l'est ou tu pars à l'ouest, et globalement tu tombes sur des challenges tout de suite qui vont être plus ou moins à ton niveau. Alors, tu peux remonter un petit peu trop et te planter au final. Mais c'est pas grave, tu peux aller ailleurs, tu t'entraînes, etc. Et ça aussi, ça fait du bien.
Quand tu dis on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, il y a quand même une limite qui est définie par la difficulté des rencontres. Alors, tu peux avancer si t'es super bon un petit peu, mais au bout d'un moment, ils seront d'un trop haut niveau. C'est pas que tu peux finir l'une de ces 3 branches complètement et puis aller t'attaquer à l'autre après.
Oh, tu peux.
Ah, tu peux quand même.
Rien t'empêche de faire ça, oui. Rien.
Mais du coup, ça sera super facile. Les autres seront super faciles parce qu'au début,
c'est un
niveau plus. Ouais. C'est ça. D'accord, voilà. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Je comprends.
Disons qu'effectivement, moi, ce que j'ai fait dans ma façon de progresser, c'est que j'ai essayé de faire un petit peu les 3 en parallèle au fur et à mesure de mes pérégrinations à Paldea, du coup, donc cette nouvelle région. Mais par contre, si tu veux juste te concentrer sur une mission ou sur une autre, tu peux tout à fait. Rien ne t'empêche de le faire. Après, c'est vrai que tu auras forcément des conséquences sur le gameplay avec cette absence de level scaling, malheureusement.
D'accord. Donc, c'est pas que tu as besoin de l'expérience des autres branches pour en finir une au bout d'un moment, pour être assez fort pour en finir une. Potentiellement, tu pourrais aller au bout de l'une d'entre elles et tu as suffisamment d'XP et de niveau en faisant tes combats. Peut-être que tu devras grinder un peu plus, mais c'est possible.
Tout à fait, mais de toute façon, en plus, le jeu, donc il n'y a pas que ces quêtes-là, parce que j'ai envie de dire, la quête principale de tout jeu Pokémon, ça dépend comment les gens jouent, mais je pense, enfin, ce que je trouve le plus intéressant à mon sens, c'est compléter le Pokédex, rencontrer toutes les nouvelles espèces, c'est quelque chose de fascinant, t'es là et tu rencontres des nouvelles espèces durant toute l'aventure, donc ça c'est super agréable, t'as l'impression d'aller de surprise en surprise, et il faut fouiller, il faut explorer, et des fois tu dis « Waouh, mais c'est quoi celui-ci ? Je croyais que je le connaissais, mais en fait non. » Et ils sont indiqués des fois sur la carte, et tu te dis « Mais où le dénicher exactement ?» Donc voilà, il y a plein de petits trucs intéressants, et toute cette exploration fait que tu vas rencontrer aussi des Pokémon sauvages, et que tu vas aussi gagner de l'expérience. Et là aussi, il y a une grande nouveauté, c'est en termes de rythme. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant, tout simplement parce que tous les Pokémon sauvages apparaissent sur la carte, comme dans les gens de Pokémon Arceus. Mais je vous rappelle qu'avant, c'était des combats aléatoires aussi dans les hautes herbes, et ça popait, ça t'interrompait. Oui. Et de la même manière, t'étais interrompu aussi par les dresseurs qui, dès qu'ils te repéraient, dès que tu passais dans leur regard, tac, ils venaient t'agresser pour dire ah, « je veux faire un combat » et tout. Là, c'est plus le cas. Là, il faut que tu ailles leur parler pour pouvoir lancer le combat. Donc ça, c'est super agréable parce que
t'es là, tu te
balades et tu dis « Moi, je veux juste me balader, j'ai pas envie de combattre en fait au final. » Et tu peux continuer à combattre. Et là-dessus, ils ont ajouté une innovation de taille qui s'appelle le mode « En avant ». Tu peux en fait envoyer ton Pokémon qui est à la tête de ton équipe se battre seul, sans toi, tu donnes pas d'ordre et tout, et le combat va être résolu en un quart de seconde en fait avec le Pokémon qu'il est en face, suivant en fait la différence de niveau entre les deux ainsi que l'affinité de type entre les deux. Et en fait tu gagnes de l'expérience aussi comme ça, mais du coup t'envoies ton Pokémon combattre et toi tu continues à explorer tranquillement. Donc il y a aussi ce côté là où tu
mais ça devient
tu vis
un auto-batteur
comme tu veux.
Ou t'as plus besoin de combattre du tout.
Clairement. Alors après, évidemment, donc les matchs contre les dresseurs, ça reste des combats classiques. Mais contre les Pokémon sauvages, tu peux choisir de te battre comme ça. Pas toujours, parce que la capture, évidemment, ne passe pas par ce mode. Uniquement le combat. Mais quand tu reviens dans des zones où tu as des Pokémon trop faibles, qui vraiment sont trop nuls, là, clairement, t'envoies ton Pokémon se battre à ta place et tu le laisses gérer, parce que ça n'a aucun intérêt, en fait. À la rigueur, tu t'arrêtes si tu croises une espèce que tu connais pas ou un Pokémon chromatique, qui est plus rare. Donc, mais sinon, voilà, ça te laisse la possibilité, en fait, si tu veux continuer à faire que des combats classiques parce que tu trouves ça plus pratique, tu peux aussi le faire. Il te donne le choix, il te donne les clés dans cet épisode, et c'est ça qui est assez grisant dans une licence qui a toujours été très très enfermée dans un carcan, qui était agréable pour autant, c'était pas la prison non plus, mais là d'un coup t'as le monde ouvert et en même temps tu as le gameplay ouvert en fait qui s'ouvre. Tu as ces deux choses qui se font en même temps, et c'est vraiment réussi, t'as une véritable alchimie en fait qui se fait entre le gameplay et le design de Paldea, et c'est hyper agréable pour ça.
Du coup, on peut dire que, enfin tu le disais tout à l'heure, mais le passage en monde ouvert est complètement réussi, et tu as l'impression d'avoir un Pokémon où tu peux... Enfin, où t'es libre, quoi. Tu peux aller explorer comme tu veux. En plus, on l'a pas mentionné, mais les Pokémon légendaires, c'est des Pokémon moto, en quelque sorte.
C'est ça, en quelque sorte.
Ouais. et en plus, ils peuvent voler comme dans Zelda. Enfin, ils peuvent planer comme dans Zelda.
Nage, voilà, tout ça. Enfin.
Ouais.
En fait, ils reprennent les pouvoirs qu'on avait déjà dans les gens de Pokémon Arceus. Donc, tu avais différentes montures qui avaient différents pouvoirs. Là, simplement, c'est qu'ils ont centralisé les pouvoirs dans une seule et même monture, ce qui est déjà plus pratique. Ouais. C'est quand même beaucoup plus pratique parce que ça t'évite justement de passer de l'une à l'autre. Là, c'est tout le gameplay concentré sur tes boutons, quoi. Donc, tu ne te prends pas la tête. Et tu explores comme tu veux. Et le monde est d'une vastitude, j'ai envie de dire, comme Ségolène Royal pourrait le dire. j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures dans le jeu, et j'ai dû faire deux tiers de la carte. Il me reste encore plein de coins à explorer. Et il y a même des endroits où je croyais que je connaissais. Je voyais sur la carte, ah bah non, en fait, j'ai même pas fait le centre Pokémon du coin, je suis même pas passé par là. Donc, c'est vraiment, c'est un monde qui est immense quand tu compares à Hisui. Et surtout, c'est que, comme tu le disais, Julie, c'est que Hisui était un petit peu vide par endroits quand même, malgré tout. Et t'avais des longues plaines où il n'y avait rien, en fait, finalement. Mais là, t'as des dresseurs, t'as des villes aussi, hein, par endroits, ce qui change par rapport à Pokémon Arceus. Tu as des petites grottes, même des grottes énormes. Tu as des trésors à ramasser. Tu as des plein de choses secrètes que je peux pas dire. Aussi pour voir sur les secrets de l'histoire de Paldea. Enfin voilà, c'est vraiment avec beaucoup plus de caractère en fait finalement qui suit. Mmh. Et tu as quand même l'impression qu'il y a une nature un peu plus vivante. Alors c'est pas encore incroyable, mais quand tu as des meutes de certains Pokémon qui se baladent ensemble, tu les vois dormir, tu les vois se nourrir, c'est un peu plus vivant quand même que dans les gens de Pokémon. Okay. Et ça c'est agréable.
Est-ce qu'il y a des activités c'est pas que je veux une carte à la jeu Ubisoft, tu vois, avec des icônes partout, mais est-ce que si tu te balades dans une région, tu vas trouver des choses intéressantes à faire, différentes peut-être, des surprises, sans spoiler parce que t'as l'air de dire qu'il y a des choses dont tu peux pas parler, mais est-ce qu'au moins il tire parti du monde ouvert pour comment dire, pas juste pour l'exploration, mais aussi pour le fait de trouver, ça fait partie de l'exploration, le fait de trouver des choses intéressantes, surprenantes dans les régions que tu explores, ou c'est juste, t'as plus de Pokémon et t'as c'est formulaïque, quoi. T'as une ville avec un gym, et voilà. Et c'est pas si... t'as pas tellement de découvertes que ça.
T'as les 18 quêtes qui sont éparpillées du coup au milieu de la carte. Donc t'as les trucs classiques, tout ça, donc les arènes comme je le disais, mais par exemple les Pokémon dominants, c'est un petit peu différent. Faut déjà les dénicher, faut essayer faut rencontrer quelle espèce c'est, etc. Et puis après t'as effectivement des éléments que tu vas pouvoir trouver. T'as évidemment des CT qui vont être donc les capsules techniques qui contiennent des attaques spéciales qui sont éparpillées. Il y en a 171 dans le jeu, donc il y a de quoi faire. Elles sont éparpillées un petit peu aux quatre coins de la map, donc déjà t'as ça à repérer. Et puis tu as effectivement des petits. Alors t'as pas beaucoup de quêtes, on va dire, quand même, qui sont sur repérer des trucs, mais ça fait partie des choses que je peux pas dire. Mais t'as quand même des choses qui se passent et des choses à voir. Et puis
c'est intéressant
des choses un peu
d'explorer
plus...
le monde. C'est un truc qui est intéressant, qui est motivant. Au-delà du fait de voir le monde lui-même, quoi.
T'as des choses aussi plus anodines, comme par exemple, tu as 10 merveilles naturelles qui en fait se transforment après en point de téléportation, lequel tu peux te téléporter plus rapidement, parce que t'as plusieurs points de téléportation, dont les centres Pokémon, les merveilles naturelles, qui te permettent un peu de te déplacer plus vite au sein de cette vaste étendue. Et même si c'est pas une quête en soi, le jeu te dit pas, tiens, ce serait bien, t'as pas de quête FedEx un petit peu comme dans Légende Pokémon, on te disait, il faut que t'ailles chercher tel objet, ceci, cela, qui était pour le coup, je trouvais un peu forcé. Là, tu sais qu'il existe ces merveilles, tu te dis, tiens, j'essaie de toutes les trouver en fait, je me demande ce que c'est.
Tu le fais toi-même, pas pour que
tu les cherches. Ouais. Donc, cool. Et ça, je trouve aussi que c'est assez sympa.
Je me posais des questions, moi, par rapport à... Est-ce que les captures de Pokémon, ça se passe comme dans Arceus ou pas du tout? Ça a évolué
Alors non, tu n'as plus de capture directe comme tu avais dans Arceus. Tu pouvais balancer toutes les balles. C'est vrai que c'était pratique. Je pense qu'ils vont le garder en spin-off. Clairement, je pense qu'on aura un Légende Pokémon 1-2. Je pense que ça devrait arriver vu le succès du jeu et l'intérêt pour la licence d'avoir aussi...
Pokémon Legends Perseus.
Pourquoi pas. Avec Béja aussi, pourquoi pas.
Ouais, voilà, faudrait voir à quoi il ressemble. Il serait forcément majestueux, c'est obligatoire. Pardon.
Je pense que les deux marchent bien en alternance. C'est bien de garder un petit peu aussi des spécificités à cette licence spin-off, justement, qu'elle soit un peu plus action et pouvoir creuser aussi le concept-là. Là, non, donc toutes les captures passent effectivement par l'ancien système de combat. Et d'ailleurs, juste au passage, je trouve que les captures sont un peu moins simples que dans les épisodes précédents où les Pokémon avaient assez tendance à se jeter d'eux-mêmes dans les Pokéballs et t'avais pas trop de défis. Là, ça monte assez vite en difficulté. Ils sont assez réticents, j'ai trouvé. C'est peut-être juste une impression, mais ça m'a paru quand même moins simple. Et d'ailleurs, le jeu dans l'ensemble, on reproche souvent à Pokémon sa trop grande facilité. Là, avec cette possibilité justement de faire les quêtes dans l'ordre que tu veux, je trouve que ça monte le niveau de difficulté et il y a des combats vers la fin du jeu qui sont quand même assez costauds. Donc j'étais assez content au niveau de la difficulté, même si tu as toujours des trucs un peu tu dis ouais, ça c'est un petit peu trop facile, mais on a quand même un challenge qui est un peu plus corsé et c'est pas plus mal.
On parle du truc qui fâche un peu quand même.
Allez, on en parle quand même. Il faut bah, la technique. Bah, ça, c'est toujours le problème de Pokémon. Donc, on a évidemment un jeu qui n'est pas très fluide. Vraiment, ça accroche. Il y a même des petits ralentissements par moment, des petites latences, des petites longueurs dans les combats. Quand tu changes de Pokémon, tu te dis mais pourquoi ça prend autant de temps et tout. Qu'est-ce qu'il attend, tout ça? Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Après, mine de rien, il y a quand même une amélioration depuis Légende Pokémon, surtout au niveau du clipping. Moi, ce que je détestais dans Légende Pokémon, c'était de voir les montagnes qui changeaient complètement de forme à mesure que tu t'approchais d'elles. Tu te dis, mais c'est ridicule. Mmh. Et là, c'est quand même moins marqué. C'est quand même moins marqué au niveau du clipping et de l'apparition des éléments au dernier moment devant tes yeux. T'as un champ de vision qui est un peu plus lointain et ça pop moins à 2 mètres. Ça, heureusement. Mais au niveau de la technique, on est encore en dessous d'un Breath of the Wild qui est sorti en 2017. Quoi. Et ça, c'est dommage, mais en même temps, c'était attendu. Donc, voilà.
Bon, faut le savoir.
C'est le point noir. Ouais, mais honnêtement, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait être du niveau de Légende de Arceus. Ouais. Et c'est quand même un petit peu au-dessus. Mais il ne faut pas s'attendre à un foudre de guerre, hein, on n'est que sur Switch, et c'est dommage, il faut s'habituer, ça prend quelques heures, mais voilà.
Il tournera mieux sur Switch 2 début 2024.
Voilà.
C'est ce
non, mais bah, après, la Pokémon Company, du coup, a annoncé qu'ils allaient recruter pour les jeux des prochaines générations, tout ça. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'ils fassent quand même des efforts au niveau. Tu peux le voir, rien qu'au niveau des animations des personnages, par exemple, c'est quand même beaucoup plus vivant par rapport aux espèces de marionnettes de Légende oui. Pokémon. Déjà ça, il y a une amélioration. Et la modélisation des créatures avec les textures aussi, il y a eu du mieux. Donc tu vois que, en fait, par petites touches, ça s'améliore un petit peu. Le résultat est clairement toujours décevant, mais il y a du mieux. Heureusement, vous allez me dire. Mais déjà tu vois, en moins d'un an, ça va mieux.
Tu parlais des créatures, et les Pokémon en particulier. Moi, je les trouve quand même, cette 9e génération, on sent qu'ils en sont à 9 générations où ils font des centaines de Pokémon à chaque fois. Ils sont quand même bien bizarres, leur look, quoi. C'est des trucs, des trucs un petit peu étranges, je trouve. C'est original, mais...
J'ai été vraiment séduit par ce bestiaire. Il y a vraiment des idées où je me dis, ouais, c'est quand même assez stylé celui-là. Et les trucs où tu te dis, bon, ça, j'aime pas, c'est moche, mais bon, ça existe, quoi. Mais il y en a où tu te dis, ah, l'idée est vraiment, vraiment pas mal. J'ai des gros coups de cœur sur certaines créatures que je peux pas évoquer, malheureusement.
Mais c'est cool de savoir qu'il y a des gros coups de cœur.
Ouais, bah moi, alors, je peux le dire sans le dire, c'est que les Pokémon que j'aime, c'est les grosses patates en général. Donc, clairement, moi, les Pokémon, les grosses patates, les rondoudous, les mélophées.
Ah, moi aussi, je l'adore. Bon,
voilà, donc.
Il y a des grosses patates dans celui-ci.
Il y a des grosses patates. Par exemple, voilà. Patachio, quand je l'ai vu, voilà, un petit chiot de Pokémon fait en beignet, tout en rondeur et tout, là, je l'ai adoré. Et il y a une grosse patate, vraiment, c'est vraiment littéralement une grosse patate pour le coup, mais je suis hyper fan et j'adore. Et t'as plein de trucs assez originaux et surtout ce que j'ai bien aimé, et ça je peux le dire sans souci, c'est que ça va sûrement faire un petit peu polémique peut-être, mais par exemple dans Pokémon t'as toujours des évolutions un peu bizarres. Par exemple, Remoraid, donc dans la 2e génération, qui est un poisson qui évolue en Octillery, qui est une pieuvre. Bon, voilà, une transformation, tu te dis juste what the fuck. Et je trouve que dans cette génération, t'as beaucoup de Pokémon, tu vois, et après tu vois son évolution, tu dis, waouh, ça n'a rien à voir, il y a des pattes qui lui ont poussé, c'est un truc, rien à voir. Et en même temps, c'est ce qu'il faut aussi le charme de Pokémon, c'est que t'es surpris en fait, t'es complètement surpris. Et là, il le joue à fond, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment cool. Et surtout, ce qu'il y a aussi, ce sont des nouvelles évolutions d'anciens Pokémon, dont par exemple Farigiraffe. Donc lui, je peux en parler parce qu'il a déjà été révélé. Donc l'évolution de Girafarig de 2e génération, qui est un Pokémon complètement oublié. Bah là, hop, tac, on lui colle une évolution. Et il y a d'autres Pokémon comme ça. Et ça, c'est cool parce qu'ils ne l'avaient pas fait depuis longtemps. Ils l'ont refait pour les gens de Pokémon. Mais là, ils le refont dans un épisode canonique. Et c'est une bonne manière aussi de faire un hommage à toutes les anciennes générations. Et tu sens qu'ils ont vraiment voulu prendre toutes les anciennes générations et pas seulement la première. Mmh. Parce que la première, on l'a eu jusqu'à l'overdose. Mais là, ils appuient pas trop dessus. Tu as un clin d'œil qui est magnifique pour tous les joueurs qui ont grandi avec rouge, bleu, vert aussi, si vous êtes au Japon. Il y a un petit clin d'œil dans une des villes qui moi, c'était un gros kiff. C'est complètement anecdotique, mais ça, c'est un clin d'œil intéressant qui n'est pas trop forcé et qui est vraiment... Ça, c'est pour les fans. Mais pour le reste, on sent un bel équilibre et un hommage à l'ensemble des générations à travers plein de petits trucs, des petites mécaniques, des petits clins d'œil. Même l'interface, je trouve, a un petit côté Game Boy sur ce côté hyper épuré du menu. Enfin, ça, c'est vraiment cool.
Il y a toutes les générations. Moi, je ne connais pas du tout les Pokémon, comme je le disais, mais du coup, tu as tout le temps toutes les générations, tous les Pokémon de toutes les générations ou il y en a quelques-uns de chaque génération?
Alors non, il y a une sélection. Comme Épée et Bouclier, en fait, avait été la première génération dans laquelle il n'y avait pas l'entièreté, enfin la possibilité de rapatrier l'entièreté du Pokédex national, ce qu'on appelle. Donc là, c'est pareil, tu n'auras pas tous les Pokémon de toutes les générations. Tu as encore une fois une sélection, une belle sélection, une sélection qui te permettra encore de... En une trentaine d'heures, j'ai capturé que la moitié du Pokédex. Donc ça laisse présager encore plus du double parce qu'évidemment, moins il t'en manque, plus il te faut du temps pour pouvoir les trouver parce qu'évidemment, c'est de plus en plus difficile. Une belle sélection, en tout cas, qui va vraiment piocher dans toutes les générations sans privilégier davantage l'une que l'autre. Et ça aussi, c'est agréable parce que il y a un bel équilibre et t'as l'impression qu'il fait vraiment la synthèse. Et tu sens justement que c'est un jeu qui veut faire le pivot finalement de ce qu'il y a eu avant et de ce qu'il y aura après.
D'accord. Bon, écoute, c'est plutôt enthousiasmant tout ce que tu nous dis. Il y a des choses dont on n'a pas parlé. Il y a les pique-niques, il y a la, comment ça s'appelle, terra-cristallisation, il y a le jeu en multi.
Terra-cristallisation.
J'ai trop besoin que tu m'expliques ça.
les trucs en multi, tu peux juste en quelques mots sur chacun parce que ensuite, j'ai la question la plus importante à te poser.
Ouais, le pique-nique, bon, c'est le gadget qu'il y a à chaque gène perso, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et encore qu'il est mieux réalisé que le camping qu'on avait dans la génération précédente. Là, tu peux te balader avec tes Pokémon autour, t'es physiquement plus avec tes Pokémon, donc c'est un peu plus rigolo. Tu peux leur faire des sandwichs, bon, ça te donne des bonus pour la capture, pour des trucs comme ça, etc. Pourquoi pas? C'est pas le truc le plus sympa, mais je pense qu'effectivement, pour les jeunes joueurs, ça va être rigolo de pouvoir justement interagir avec ces Pokémon et
créer du lien. Les nettoyer et tout.
Genre de choses. Tamagotchi, quoi. L'aspect plus intéressant au niveau du gameplay, c'est la Terra Cristallisation, donc qui fait suite à la Méga Évolution, le phénomène Dynamax, etc., les attaques Z. Voilà, à chaque fois, on a un petit gimmick. Le gimmick de cette gen, c'est la Terra Cristallisation. Alors, un Pokémon peut se terra-cristalliser en n'importe lequel des 18 types existants. Une fois qu'il est terra-cristallisé, il devient monotype et il change de type pour le type de son cristal. Sauf qu'en fait, quand vous croisez un Pokémon dans la nature, en général, le Pokémon commun, il aura une terra-cristallisation en l'un de ses types de base. Par exemple, Granivol, Pokémon plante-vol, vous aurez de grandes chances de croiser un Granivol qui terra-cristallise en plante. Donc une fois qu'il aura terra-cristallisé, il sera plus que de type plante. Donc il perd son type vol, il sera sensible au sol. Mais en revanche, ses attaques plantes seront encore plus puissantes.
Puisqu'un Pokémon, c'est juste pendant le combat ou c'est pour toujours qu'il est terra-cristallisé?
Non, c'est pendant le combat. Ah oui, et ta terra-cristallisation, en fait, il faut que tu ailles la recharger après au centre Pokémon. D'accord. Donc tu ne peux pas non plus le faire autant de fois que tu veux à la suite. C'est pas comme les attaques Z où c'était une fois par combat, par exemple. Après, tu auras des créatures... qui ont des espèces d'émanations cristallines autour d'elles, qui sont plus difficiles et qui sont plus rares aussi, plus difficiles à capturer et plus rares à croiser dans la nature, qui auront, elles, un terra-cristal différent. Par exemple, ton granivol plante-vol pourra terra-cristalliser, pourquoi pas, en type feu. Et là, ça deviendra complètement un type feu quand tu le terra-cristallises. Donc, il sera sensible à l'eau, mais il sera efficace contre les Pokémon plantes, etc. Et tu as aussi les raids Terra Crystal qui remplacent les raids Dynamax de la génération précédente, où jusqu'à 4 joueurs en local ou en ligne peuvent coopérer pour affronter un Pokémon Terra Crystal et le capturer à la fin, avec là aussi un type Terra Crystal qui sera plutôt intéressant et qui va être différent. J'espère que j'ai été clair sur la Terra Crystallisation. En fait, le concept est relativement simple, il faut dire que c'est un changement de type, mais avoir ces Pokémon qui changent de type, c'est pas forcément évident parce qu'on les croise pas au coin de la rue. Mais en revanche, c'est un véritable intérêt stratégique parce que quand tu joues contre un autre joueur, tu sais pas quel est son Pokémon qui va terra-cristalliser et tu sais pas en quel type il va terra-cristalliser. Donc admettons qu'il amène un Pokémon plante. Donc là, tu dis je sors un Pokémon feu Et là, tu vois le Pokémon plante adverse qui terra cristallise en Pokémon eau. Paf, en fait, t'es foutu. Et ça ajoute vraiment des retournements de situation. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur la scène e-sport, en fait, parce que ça va vraiment ajouter des retournements, quoi.
D'accord. Donc ça, c'est une des fonctionnalités intéressantes. Le multijoueur, explorer l'open world, wow. Le multijoueur, tu peux vraiment aller à 4 n'importe où dans le monde et tu...
Ouais, tu te balades, après c'est juste... moi, ça m'a fait penser un petit peu à Temtem pour le coup, donc c'est pas l'aspect le plus intéressant, surtout que ça te bloque les raids Terra Cristo, en fait, pour ce petit groupe de joueurs en Club Union, donc tu peux le faire pareil en local ou en ligne. Il y a un côté sympa pour Zero, on est ensemble, on vit le truc ensemble, mais ça n'ajoute pas vraiment de véritable l'aventure est pas conçue pour, en fait, du coup, donc c'est pas le truc le plus transcendant, quoi. Et
c'est pour se retrouver pour aller faire les raids et voilà, quoi, a priori.
Ouais,
c'est
vraiment plus sympa pour les raids, ouais. Clairement, pour les raids c'est beaucoup plus sympa.
Du coup, je ne sais pas si tu vois un petit peu le niveau de capacité des enfants de 4-5 ans. Je pense que c'est un peu trop tôt un Pokémon pour 4-5 ans, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, pour mon fils? Est-ce que je peux lui proposer Pokémon violet, ou est-ce que c'est trop tôt?
Alors justement, dans cette génération, il y a toujours eu une école de dresseurs, hein, dans les premières villes. Sauf que là, tu es étudiant de cette école. Et ils ont fait un truc extrêmement bien, je trouve, pour le côté didacticiel. C'est, déjà, on ne te force pas la main de le faire, mais surtout, c'est qu'en fait, quand tu vas à l'Académie Orange ou l'Académie Raisin, tu peux suivre des cours et tu choisis toi-même d'aller en cours de mathématiques, de biologie, d'histoire, de Pokémon, tout ça. Et en fait, tous ces cours sont en fait des prétextes pour t'apprendre des mécaniques de Pokémon. C'est-à-dire qu'en mathématiques, ce qu'on va t'apprendre, c'est que le type, s'il est efficace sur un autre type, il va faire des dégâts multipliés par 2. Donc c'est de la mathématique. Et plein de trucs comme ça. La biologie, ça va t'expliquer, ouais, les types des Pokémon, ce genre de choses. Et donc t'as plein de petits cours comme ça qui se suivent, vraiment très nombreux, et qui permettent complètement d'appréhender les mécaniques de Pokémon de manière un peu ludique, parce que t'as des professeurs assez rigolos, avec des caractères très différents, que tu recroises en plus au cours de l'aventure, et qui te plongent vraiment dans cet univers en t'expliquant en fait comment ils fonctionnent. Donc tu peux explorer si tu veux, et tu dis, tiens mince, je suis un petit peu coincé ici, je vais à l'académie et j'apprends des choses en plus au passage. C'est très très court, hein, ça dure 2-3 minutes de texte pour pas non plus t'embêter. Mais voilà, c'est une manière, je trouve, extrêmement intéressante. Et 4-5 ans, non, je pense que ça peut le faire, peut-être pour guider par rapport à expliquer ce qu'est un monde ouvert, parce qu'on peut peut-être rapidement se retrouver face à des Pokémon qui sont trop puissants si on va un peu trop loin, si on se concentre que sur l'exploration.
Oui, quand je dis qu'il pourrait y jouer, je jouerais avec lui, hein, c'est pas que je le mettrais tout seul devant le truc, il s'en sortirait pas, évidemment. Mais
en même temps, on le lâche dans une petite zone du début où il y a que des petits Pokémon mignons et on peut les capturer et tout. Et déjà, rien que la petite zone du début est déjà une vaste zone. Ouais. Déjà, ça, c'est assez intéressant. Donc, je pense que vraiment, ce jeu est vraiment bien dans le sens où il te prend par la main si tu as besoin d'être pris par la main, et tu sais où tu vas chercher les informations à l'école. Et je pense que justement, peut-être que pour les enfants, en plus, c'est assez clair d'avoir ce rapport au maître. Tu dis, tiens, là, je ne sais pas trop quoi faire. Je vais aller voir ce que disent les professeurs pour un petit peu m'aider à mieux comprendre ce qui se passe autour de moi.
Ouais. OK. Bon, on verra peut-être, effectivement. En fait, à chaque fois, le problème, c'est qu'il voit des trucs et il veut absolument y jouer. Et puis, il va jouer, comme tu le dis, dans la première zone. Il ne va jamais aller au-delà. J'espère qu'il y aura une démo. Comme ça, on pourra voir jouer un petit peu avec la démo et je n'aurai pas besoin de... Enfin, j'aurais pas le risque d'acheter un jeu pour rien, quoi. Bon, on verra. Je pense qu'il est un peu jeune encore. Mais
tu peux y jouer toi, sinon, ouais, après.
Mais...
Hein.
Mais oui, toi, tu peux commencer. C'est l'occasion.
Peut-être. C'est potentiellement... bon, j'ai d'autres choses auxquelles je veux jouer aussi, mais peut-être. Merci beaucoup,
ça,
Lou.
Tu dis que Pokémon, c'est pas ta priorité.
Écoute, moi, je suis un vrai, et du coup, je vais jouer dans Warzone. Parce que je veux un gros flingue et désinguer des gens et faire du teabagging quand je les tue. J'arrive pas à
tuer qui que ce soit.
donc je fais
pas se cacher de Patrick.
C'est ça.
Il n'y a pas de teabagging dans Pokémon, hein, je précise.
Ah merde, bon bah ok, tant pis. Non mais il faut que j'apprenne à mon fils, tu vois, comment on se comporte quand on est un gamer. Bon. Oui, pardon.
Donc, j'allais dire, tu vas prendre le teabagging à ton fils, mais ok. 4-5 ans, c'est un petit peu tôt. Mais
c'est écoute, peut-être encore un petit peu jeune. On va attendre qu'il en ait 13 ou 14 quand même pour ce genre de choses. Merci beaucoup, Lou. En tout cas, je suis très intrigué. En fait, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on commence à faire ce genre de truc, mais on va voir. Ok. Bon, on a passé beaucoup de temps sur Pokémon, mais c'était le jeu principal de la semaine, de loin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et du coup, je me retourne vers Julie. Toi, il y a deux jeux auxquels tu as joué, des jeux qui étaient relativement attendus par... alors attends, je vais te faire une intro en bonne et due forme. C'était des jeux qui étaient relativement attendus par la scène snob et élitiste des amateurs de jeux indépendants et qui n'aiment pas les jeux AAA. Et alors, qu'as-tu pensé de Somerville et Pentiment, comment on dit ?
Ah non, mais quelle intro, quoi. Donc, pour mes amis snobinards non adeptes du teabagging, effectivement, j'ai exploré un autre
sport. Tu vois,
c'est
pas des vrais gamers. Ils jouent pas à des jeux où on peut faire du teabagging, donc forcément.
Mais c'est vrai que oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que Somerville était attendu, notamment parce que je pense que ce qui attirait avant tout, parce qu'on connaissait pas grand chose avant la sortie du jeu, c'était sa DA. Enfin, on voyait en fait une famille ordinaire dont le quotidien est bouleversé par une invasion extraterrestre. Et en termes de DA, c'était très intriguant avec vraiment des images à un peu style La Guerre des Mondes, avec des immenses vaisseaux extraterrestres et des rayons violets. Bref, c'était un peu attirant. Mais un des gros points d'intérêt, c'était que c'était le premier jeu du studio Jumpship, qui est donc cofondé par Dino Patti, qu'on connaît pour avoir notamment cofondé Playdead, qui ont fait Inside et Limbo. Et forcément, inconsciemment, il y a une filiation qui se fait. On se dit, ok, ça va être un jeu à la Inside et Limbo. Et c'est pas... forcément, la même, comparaison est tout à fait...
Même dans les trailers, ce qu'on voit, ça ressemble beaucoup à Inside, je veux dire.
Ouais, c'est ça. C'est qu'on a vraiment l'impression que c'est un jeu qui appartient à la grande famille. La petite famille des cinématiques platformers, parce qu'il n'y en a pas tant. Enfin, des jeux un peu comme Inside et Limbo, où il n'y a pas... l'histoire se raconte plus par la mise en scène que par les dialogues. On est un peu propulsé sans savoir ce qui va se passer. Mais alors, la différence avec Somerville, c'est que c'est pas un jeu de plateforme, dans le sens où on a un personnage qui avance et on a à peine un bouton d'action. Et l'action varie selon la scène où on se trouve. Il n'y aura pas un bouton qui permet de sauter. C'est, disons ouais, qu'à un moment, un la touche action, elle va permettre quoi. De... Ouais, voilà, c'est ça exactement. Là où, par contre, il ressemble énormément à Inside et Limbo, c'est sur le fait qu'il raconte aussi son histoire sans le moindre mot. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce type de narration. On est vraiment propulsé dans un monde où on nous dit absolument rien de ce qui se passe. En fait, on se retrouve un peu comme le protagoniste qu'on incarne, donc qui est un père de famille séparé de sa femme et de son fils, mais pas de son chien, c'est important, parce qu'il va nous suivre pendant une bonne partie de l'aventure. Et lui n'a aucune idée de ce qui se passe, et en fait, on évolue comme ça, d'un tableau à un autre, sans jamais avoir la moindre explication, jusqu'à la fin. Donc il y a peut-être quelques moments un peu sibyllins, mais moi, j'aime bien ces jeux qui laissent un peu la part belle à l'interprétation et qui permettent quand même de ressentir pas mal d'émotions, mais sans un seul mot. Mais là où le jeu a des limites quand même, parce que c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut une petite mise en garde par rapport à Inside et Limbo, qui sont quand même unanimement acclamés par la critique et les joueurs, c'est qu'il y a un côté moins instinctif par rapport aux énigmes. Alors moi, il y a eu des moments où j'étais vraiment bloqué. Il y a peut-être 2-3 énigmes sur les 5 heures qu'ont duré le jeu qui m'ont donné pas mal de fil à retordre, où je me disais, mais j'ai aucune idée de comment faire. Parce qu'on a vraiment zéro indication, que ce soit sur l'histoire, mais aussi en termes de gameplay. Il y a juste peut-être à peine un moment où on va nous dire, là, il faut appuyer sur ces boutons, mais sinon, pour le reste, c'est vraiment débrouillez-vous, et c'est le level design qui fait son œuvre. C'est parfois avoir des petits éléments de lumière qui vont un peu nous indiquer par où aller. Mais ça, à la limite, ça m'a pas spécialement dérangé. J'aime bien en fait le côté un peu die and retry qu'il peut y avoir sur certains niveaux. Parce qu'en fait, donc oui, j'ai pas trop expliqué ce qu'on faisait. On est donc un père de famille qui donc va essayer de chercher sa femme et son fils, et qui se retrouve face à une menace extraterrestre dont il ne connaît absolument rien, et en fait va devoir s'adapter en permanence. Donc par exemple, il y a un tableau où on va devoir éviter des attaques, il y a une scène un peu plus tard où on va devoir faire de l'infiltration, ça change, et il y a toujours cette espèce de petit sentiment d'appréhension où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et il y a des moments de mise en scène assez grandioses, mais qui sont parfois entachés par des problèmes de gestion sur les phases de déplacement. Il y a clairement des moments où moi, je me prenais les murs en pleine course-poursuite. Ah oui. En plus, c'est marrant, mais ça m'a fait penser à Sifu, où je trouve qu'il y avait un peu le même défaut, bon, à une échelle différente, mais c'est un jeu qui se voulait tellement être cinématographique, notamment dans ses influences, que ça saute aux yeux, en fait, dès qu'on fait quelque chose de mal. Et là, le simple fait de buter contre un mur ou un élément du décor, alors qu'on sent que c'est censé être une scène hyper prenante et qui a été pensée pour être impressionnante, ça fait un peu rater l'effet, on va dire. Mais globalement, je trouve quand même que c'est un jeu intéressant, qui est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle, c'est sûr, mais... peut-être qu'on pourrait le mettre dans la catégorie Xbox Game Passable, comme on l'a dit.
C'est un jeu passable. Attends, merde, j'étais pas prêt. C'est du coup...
un jeu passable.
mais honnêtement, non, je suis cruelle, parce que je trouve quand même... Moi, en tout cas, il m'a ému.
Parce qu'il est sur le Game Pass, accessoirement, mais ouais.
Eh ben oui, il y a, ouais, c'est pour ça que je le balance, que je lui accole ce label. Mais vraiment, rien que pour la DA et la mise en scène, je pense qu'il vaut le détour. Et après, ben voilà, faut juste quand même pas s'attendre non plus à avoir un jeu exactement comme Inside et Limbo, avec le même degré de finition, on va dire.
C'est marrant, parce que je m'attendais, c'est un peu pour ça que j'ai fait cette intro aussi, j'ai entendu beaucoup de déceptions, en fait, de mes amis sur les réseaux sociaux, et des gens qui étaient quand même assez critiques de la plupart des éléments du jeu. Toi, t'as l'air quand même, on va dire, mitigé, il y a des choses qui t'ont déçu, mais tu trouves quand même que c'était une expérience positive au final, là où mon impression,
pour moi,
c'est raté, quoi.
Ah ouais, non, moi je trouve pas. Franchement, je peux comprendre sur certaines énigmes, certains passages un peu bloquants, moins intuitifs peut-être, mais quand même, dans l'ensemble, moi j'en garde un chouette souvenir.
Est-ce que est-ce que tu avais un horizon d'attente qui était différent quand tu avais vu les bandes annonces, etc., le style du jeu, et quand tu as fait le jeu? Parce que, en fait, ça me fait penser aussi, ce côté déception dont tu parles, Patrick. C'est, moi, il y a beaucoup de jeux, par exemple, où je suis hyper attiré, du coup, par un trailer, par un concept. Et après, tu te rends compte, quand tu fais le jeu, finalement, que le truc n'est pas assez poussé, que c'est pas assez, que c'est mal fini, et que du coup, c'est pas aussi brillant que ça avait l'air. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas du tout, Julie?
Eh ben là, honnêtement, ça va, parce que je savais tellement peu de choses du jeu, tout ce qu'on avait vu, c'était un trailer, que du coup, je pense pas y avoir placé des attentes démesurées. En tout cas, j'ai retrouvé la DA qui m'avait plu dans le trailer, et après, pour le reste, finalement, c'était que des suppositions qu'on pouvait faire par rapport au palmarès de Dinopathy, on va dire. Donc là-dessus, non, j'étais assez... j'étais pas trop déçu.
C'est peut-être ça le secret, c'était de manager tes expectations, comme on dit en français.
Et du coup, c'est ça.
Et du coup, est-ce que tu as managé tes expectations pour Pentiment, l'autre jeu que tu as testé, enfin auquel tu as joué? Petit résumé rapide, Pentiment, c'est un jeu, ça a l'air d'être vraiment un projet, un projet de cœur de Obsidian, Obsidian racheté par Microsoft, et qui est à la base le développeur de grands jeux d'aventure, Fallout New Vegas, Outer
Pillars
Worlds,
of Eternity,
Pillars of Eternity, Neverwinter Nights, il y en a plein. Et ça, c'est un projet vraiment bizarre, c'est ce fameux jeu avec des graphismes en enluminure et très, très narratif en quête.
Je suis venue quasiment exclusivement pour ça, c'est terrible. C'est dans le sens où je ne suis pas grande experte des RPG d'Obsidian, mais en fait, juste la DA à base d'enluminure de manuscrits du Moyen-Âge, ça m'a donné immédiatement envie. Et en même temps, je me méfiais aussi, parce que je me souviens avoir plusieurs fois eu des coups de cœur comme ça, où vraiment des jeux sur le papier me séduisent énormément. Ouais. Je crois que le dernier qui s'inspirait un peu de...
Ton cœur a été brisé plusieurs fois, donc...
Ah voilà,
voilà, c'est ça, on l'a déjà fait, c'est bon. Je crois que c'est Procession to Cavalry, qui, pareil, me donnait hyper envie par rapport à la DA, et en fait, comportait que des puzzles tarabiscotés. Du coup, je m'étais dit, bon, ce jeu-là, tu vas quand même le tester, parce que voilà, l'univers te séduit, mais t'attends pas à grand-chose. Et alors, par contre, j'ai été très très agréablement surprise, parce que j'ai adoré. Je m'attendais pas du tout à autant rentrer là-dedans, parce que en fait, c'est quand même un parti pris intéressant. Au-delà de la DA, ça reste un jeu inscrit dans une période historique très particulière. On est donc dans les Alpes bavaroises au XVIe siècle, et Et c'est un jeu qui n'hésite jamais à balancer sa science au visage du joueur, mais je trouve de manière assez... assez subtil, enfin, c'est, on en ressort en ayant appris plein de trucs. Vraiment, moi j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses.
Sur l'époque, tu veux dire ou...
Bah, sur l'époque, ouais. Par exemple, je ne connaissais même pas le terme scriptorium avant d'y jouer. Maintenant, je pourrais le placer dans une phrase sans souci. Disons qu'aussi, il hésite pas, il n'a pas peur de traiter de thématiques qui sont souvent délaissées par qui sont habituellement délaissées par le jeu vidéo. Ça parle notamment donc de la disparition de... Nous, on incarne un maître artisan qui s'appelle Andreas Mahler et qui passe sa Wanderjahre, donc c'est ses années d'errance, en fait, des années qui va passer à perfectionner, en fait, son l'art de l'enluminure dans une abbaye avec des moines, bref, pour résumer très simplement. Et c'est une période où l'imprimerie commence à progresser, donc les scripts sont en voie de disparition. C'est aussi une période où on constate la montée du protestantisme. C'est ultra intéressant. Enfin, vraiment, je trouve ça parle d'énormément de choses. Ça parle de lutte des classes, ça parle d'oppression des femmes, mais toujours de manière, enfin, vraiment, je trouve ultra intéressante et sans qu'on ait l'impression de lire un pavé ou 40 fiches Wikipédia sur le XVIe siècle. Et ça, je trouve que déjà, c'est brillant, mais au-delà de ça... les mécaniques principales du jeu, donc c'est un jeu d'enquête essentiellement, donc qui se fait en point and click, où on va en fait se balader sur une carte assez réduite. On va de paysage en paysage pour s'entretenir avec des personnages. Donc il y a un meurtre qui est commis au début du jeu, et nous, en fait, on est chargé de mener l'enquête en discutant avec plusieurs personnes avant de se rendre compte que plein de gens ont des raisons d'en vouloir à la personne qui a été tuée. Et c'est honnêtement ce qui est ultra bien, enfin, c'est que et ça paraît un peu bizarre au début, c'est qu'il n'y a pas de coupable canonique dans le jeu. Nous, en gros, ce qu'on va faire en tant que joueur, c'est vraiment s'entretenir avec le plus de personnes possible pour essayer de déterminer peut être le tueur, et on va livrer notre conclusion. On a quelque chose comme 3 jours pour livrer notre conclusion. À ce moment-là, en fait, on a amassé un certain nombre de preuves, sachant qu'on n'a pas le temps de tout faire. Le temps est limité, et donc on a 3 jours, et ces 3 jours comportent des activités. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais par exemple, dans une journée, on peut avoir 2 repas avec des personnes, par exemple, qui pourraient être des suspects, ou nous donner des informations sur un suspect. Mais il faut choisir, en fait. On ne peut pas bouffer avec tout le monde, on ne peut pas discuter avec tout le monde, on ne peut pas faire toutes les activités qui s'offrent à nous. Et donc, on aura forcément une vision un peu parcellaire de l'enquête, mais il faut quand même livrer une conclusion. Et ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on passe son temps, enfin, on finit par la livrer. Et on vit avec les conséquences de nos décisions jusqu'à la fin du jeu. Enfin, le jeu, il s'étale sur 25 ans, et on va donc potentiellement 20 ans après croiser un perso qui nous en veut encore d'avoir tué son mari, quoi. C'est vraiment chouette, dans le sens où moi, ce que je reproche souvent aux jeux narratifs à choix, c'est de montrer de manière ultra évidente ce qui est un bon choix ou un mauvais choix. Alors que là, on sait jamais. On sait vraiment jamais. Et on a toujours l'impression de vivre sa propre aventure, dans le sens où, bon, y a bien les éléments RPG qui sont là. On peut choisir, par exemple, quelles sont les spécialités de notre personnage, ce qui va permettre d'accéder à certaines quêtes plus facilement, avoir d'autres options de dialogue. Et c'est vraiment, vraiment très, très cool.
Et du coup, donc là, tu as cette quête à faire en 3 jours sur le meurtrier, mais tu dis que ça dure 25 ans. C'est quoi le gameplay, du coup, après? C'est quoi les objectifs
Alors, il y a 3 actes. C'est le premier, donc c'est résoudre une enquête. Le deuxième, résoudre un meurtre. Le deuxième, c'est pareil, mais ça se passe sur une période... ça se passe plus tard, à un moment où il y a la révolte des paysans qui commence à monter dans le village où on se trouve. Et le troisième, alors là, ça va être avec un autre personnage, mais c'est assez intéressant, c'est plus sur la représentation historique. Je ne veux pas trop spoiler le jeu, mais en gros, les événements qu'on a vécu vont être amenés à être représentés, et il faut essayer de déterminer quelle est la meilleure manière de le faire, et ça, je trouve
c'est
ça
génial.
Vraiment brillant. Ouais, c'est vraiment un jeu, je trouve, ultra culotté, parce que vraiment, il s'inscrit complètement à rebours de la plupart des jeux que j'ai l'habitude de faire, mais je trouve qu'il est très très réussi. Mais bon, voilà, il y a quand même quelques petits défauts. C'est que moi, je m'attendais pas à une durée de vie aussi généreuse, mais une partie, c'est quelque chose comme 15 heures. Et sur ces 15 heures, on peut pas dire que ce soit toujours ultra bien rythmé. Il y a clairement des moments de vide. Il y a aussi le fait que tous nos interlocuteurs nous accueillent de la même manière, à savoir en disant que Dieu vous bénisse, et au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais bon, franchement, on arrive quand même facilement à passer outre, parce que tout ce que le jeu réussit, il le réussit à merveille.
Il y a la communauté des médiévistes dans le chat, là, qui est en train d'exploser de joie à l'idée du jeu. On leur passe le bonjour. Bah, très bien, du coup, comme quoi, il faut peut-être pas toujours se fier uniquement aux avis de certains. Les deux jeux, moi, j'avais l'impression qu'ils étaient relativement décevants de tout ce que j'avais entendu. Et toi, tu as l'air de les avoir appréciés. Bon, peut-être un petit peu plus Pentiment, qui a l'air en plus original,
ouais,
et réussi.
J'avoue. Ouais. Je ne m'attendais pas autant à tomber dedans aussi. Vraiment, il est super bien.
Du coup, c'est un jeu qui est sur le Game Pass, mais qui n'est pas un jeu passable, qui est un jeu qui est vraiment bien et qui est dispo sur le Game Pass. Donc, voilà. Vous pouvez aller le tester si vous êtes abonné au Game Pass. Moi, je vais passer rapidement sur les trucs auxquels j'ai joué de mon côté. D'une part, j'ai un tout petit peu joué à Warzone 2.0. Effectivement, je n'ai pas fait de teabagging, hein, en vrai, simplement parce que de toute façon, j'ai tué personne et je suis mort direct. Warzone 2.0, c'est une version qui est simplement, une upgrade technique de Warzone 1. Warzone 1 reste disponible, comme je le disais la semaine dernière, mais le 2 est unique. Enfin, le 1 est plus accessible pendant quelques jours. Le 2 est disponible depuis aujourd'hui ou hier. Il y a un nouveau mode qui s'appelle le mode DMZ. J'ai rien compris. J'ai fait une partie en DMZ, j'ai rien compris. On a tué des bots et puis on m'a continué à marcher. Je suis mort 3 fois, on m'a ressuscité, je suis mort encore une fois et c'était fini. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, j'ai pas compris où il fallait aller. Enfin, c'était horrible. Bon, à côté de ça, il y a le mode Battle Royale classique. Mais dans chaque mode, en fait, il y a 3 sous-modes. Et dans chaque sous-mode, il y a plusieurs modes de jeu, genre quad, trio, duo, solo, et un autre mode en plus. C'est hyper, hyper riche. Bon, c'est Warzone, donc il y a de quoi faire. C'est beaucoup moins compliqué à comprendre au niveau des menus. J'avoue que Warzone, c'était imbitable. Là, ça va quand même un petit peu plus, même si quand on rentre dans le mode... En fait, il y a 4 jeux différents dans le jeu. Il y a Modern Warfare 2 qui est aussi téléchargé. Si on achète, on y a droit, on a l'accès. Mais Warzone est free-to-play, évidemment. Et il y a DMZ et Battle Royale qui sont presque des modes différents. Et puis, il y a un autre mode en plus, Killbox, Killgame, un truc du genre. Mais c'est genre 3 jeux différents dans le même jeu. C'est incroyable ce qu'ils font comme truc hyper lourd, mais le jeu a l'air moins lourd quand même que le premier, donc la refonte technique a peut-être porté ses fruits. Un truc qui m'a surpris, j'ai lancé le jeu et il ne voulait pas se lancer si je ne mettais pas à jour mes drivers. Juste, il disait, vous ne pouvez pas jouer parce que vous n'avez pas des drivers assez à jour. Et ce n'est pas que je le mets à jour tous les 3 ans, hein, je l'avais mis à jour il y a 2 mois, quoi. Et il ne voulait pas se lancer, mais du tout. C'est marrant, le pouvoir de Call of Duty et d'Activision Blizzard qui puisse te dire non mais mets à jour ta machine gars, sinon on ne veut pas perdre de temps avec toi quoi, tu mets ta machine à jour et voilà, et sinon bah tu vas trouver autre chose à jouer. C'est une étape qui est quand même forte. Je pense que n'importe quel autre jeu dirait bah, on est aussi compatible que possible parce qu'on veut pas mettre une barrière au fait que les joueurs jouent avec nous, et là ils se permettent ça, donc très bien. Bref, Warzone, c'est Warzone, ça reste super efficace, et l'aspect technique, j'ai senti qu'il était plus léger, il moulinait moins, donc c'est assez sain, et en plus, ça permet de partir sur des bases saines pour l'avenir et la version mobile. Donc, ils ont un tronc commun, ça se développera plus facilement. Donc, il y a ça d'une part, et d'autre part, God of War, sur lequel j'ai passé un petit peu de temps. Toujours pas de spoiler, hein. je vais rien spoiler. Si jamais vous voulez rien entendre du tout sur God of War, avancez de 3-4 minutes. Mais je dirais, on l'évoquait juste avant de commencer à discuter des news, avec Julie notamment. C'est
Atreus le backseater.
Mais c'est infernal. C'est infernal comme il t'explique toutes les énigmes. T'es en train d'essayer de comprendre comment faire, comment résoudre un petit puzzle, et il est là à côté, il te dit « Papa, tu devrais regarder par ici, regarde, il y a un truc qu'on pourrait bloquer. » Et tu « Mais tais-toi, Atreus !»
Oui, puis si c'est pas lui, c'est Mimir, quoi. Quel homme, tu devrais tirer sur la poulie qui retire la corde.
Mais, alors, c'est très bien qu'il t'aide, mais il devrait au minimum y avoir un petit paramètre pour le désactiver. Au minimum.
Alors, je me posais la question, justement, parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est pas possible, parce que c'est vrai que je sais que en termes d'accessibilité, je me dis ce serait pas étonnant quand même. Enfin, moi en tout cas, je salue le travail qui a été fait sur l'accessibilité.
Ah, incroyable.
Il y a plein d'options configurables et si on pouvait effectivement avoir un truc pour muter les deux backseaters qu'on se traîne en permanence, ce serait vachement bien.
Vous pouvez pas les tuer sinon, comme ça, moi c'est radical.
Ça réglerait le problème. On nous dit dans la chatroom qu'il y a une option pour changer ça. Je m'en suis plein. Tu vois, comme quoi, voilà, quand on se plaint, bon, il faut...
Ah, c'est boomer.
Exactement. Tu as le choix sur court ou long. Oh, mais c'est exactement ce que je voudrais. Je voudrais un petit peu plus de temps. Bon, bah écoutez, d'accord. Je me tais. Atreus, en fait, je t'aime toujours. et puis à côté de ça, je dirais, encore une fois, pas de spoiler, mais de tout ce que j'ai joué, j'ai l'impression que la... Il y a tellement eu de foin qui a été fait sur le fait de ne pas faire de spoiler. J'ai pas fini le jeu encore, donc peut-être qu'il y a un truc fou qui se passe à un moment, mais je trouve que le jeu est quand même, même s'il y a beaucoup de choses intéressantes, et je comprends des choses spoilables, j'avais presque l'impression des attentes, on parlait d'attentes pour Pentiment tout à l'heure, je crois que tout le discours autour des spoilers m'a fait attendre, à monter mes attentes de manière un petit peu irréaliste. Et du coup, le fait que ça soit, alors clairement une évolution du God of War de 2018, mais complètement dans la lignée du God of War de 2018, je sais pas, je m'attendais à un truc de plus, un truc plus important.
Je vois très bien ce que tu veux dire.
En
fait, parfois, ça peut arriver aussi quand on reçoit des jeux pour les tester qui s'insistent tellement dans les review guides pour dire attention, ne spoilez pas à partir du chapitre 4 que toi t'arrives. Je dis ça au pif, hein. Mais je me souviens que ça me l'avait fait un peu pour Death Stranding, que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, mais ils en avaient fait tellement un foin sur un passage particulier du jeu que quand ce moment est arrivé, j'étais oui, ok. Mais c'est pas comme si c'était pas présent dans tous les trailers, mais bref, y a des moments comme ça où je peux avoir des attentes démesurées parce qu'on me dit attention, ne spoiler surtout pas, et du coup, j'apprends à me méfier en fait de ces moments-là. Ouais,
j'aurais dû me méfier aussi. Parce que clairement, là, je suis presque déçu par défaut, quoi. Mais, déçu, c'est un grand mot. Le jeu reste complètement, complètement incroyable. Une qualité de production folle, un plaisir. Et je prends énormément de plaisir à explorer. Et j'ai vraiment... je suis frustré de me dire, il faut que je joue quand même un petit peu plus vite parce que j'ai pas énormément de temps avec les enfants, tout ça. Et en même temps, je voudrais explorer plus, je voudrais prendre plus mon temps, parce que je sais que quand je vais arriver au bout de l'histoire, je vais m'arrêter, je crois. Généralement, c'est comme ça que je fonctionne dans ce type de jeu, même si je les adore. Bon, quand je suis arrivé au bout de l'histoire, j'ai la motivation qui baisse. Et pourtant, je l'apprécie énormément. C'est l'un des meilleurs jeux de l'année, sans aucun doute. Et une qualité de production complètement folle. Et même, l'histoire est prenante, le gameplay est fun, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, je ne veux pas que mes quelques critiques laissent penser que, c'est pas super, quoi. C'est très, très bien. Mais il y a eu cette petite simili-déception, comme le dit Julie.
Alors moi, il y a juste un truc, c'est que j'imagine que tu avais fait celui de 2018 et que tu l'avais bien aimé.
Bien sûr, oui.
Je l'avais pas fait, moi, et donc je suis arrivée dans celui-ci complètement à l'aveugle. Ouais. Et alors, effectivement, c'est pas très accueillant pour les nouveaux venus, je dis ça, enfin, au cas où il y aurait d'autres personnes dans mon cas qui se disent « Tiens, je vais me lancer, en plus, il y a un récap, je vais peut-être comprendre quelque chose ». Moi, je me suis retrouvée propulsée là-dedans à absolument rien comprendre, à part qu'il y avait tout un tas de dieux quand on voulait à Kratos qui s'invitaient chez lui pour boire le café et qu'après il se décide au dernier moment de lui planter un couteau dans le dos. Enfin, pour moi, le scénario n'avait pas beaucoup de sens, mais là où le fun a été instantané, c'est sur les combats. Les combats et qui apparemment est directement hérité de celui de 2018, mais cette espèce de coup de pied. Vraiment, le système de combat est très, très fun.
Ouais, on est d'accord. Quand t'as pas ta hache et que tu mets un gros coup, que ça fait le coup de pied, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Je l'aime beaucoup, ce coup de pied.
je te comprends.
Il est superbe.
Ouais, non, mais c'est sûr. Je dirais que quand même, c'est mieux de faire le premier avant. Mais c'est une aventure qui est un peu dodue. Hein. Le premier, il fait pareil, 30 heures. On me dit que celui-là fait au moins 30 heures aussi. Donc ça fait, c'est un investissement sensible. Le truc que je dirais à propos de ça, c'est qu'il y a quand même Je ne sais pas, l'aventure est très cinématique, mais il y a quand même beaucoup de moments où on te fait le truc classique du jeu, où on te dit, ah bah, maintenant, il faut absolument qu'on aille chercher qu'on aille chercher la corne de brume de Niflheim. Mais attends, pour choper cette corne, il faut quand même qu'on aille rouvrir la porte du truc et il faut que tu ailles chasser deux gemmes de... Je dis n'importe quoi, hein, c'est pas dans le jeu, mais... deux gemmes de géants pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, on te rallonge la sauce un petit peu comme ça. Ce qui ne me déplaît pas, parce que j'aime le jeu et je veux y jouer beaucoup. Mais, je ne sais pas, c'est moins bien goupillé dans l'ensemble que ça peut l'être dans d'autres jeux cinématiques où je trouve que l'histoire, même dans un jeu... Enfin, il n'y en a pas 12 hein, des jeux qu'on peut comparer, mais un jeu comme Last of Us... C'est évidemment section narrative, on avance un petit peu dans le monde et puis on a une arène avec des combats. Évidemment que c'est la formule qui, je suis sûr, dans 10 ans nous paraîtra hyper « c'est du jeu vidéo » et que les choses auront évolué depuis. Mais c'est la formule, mais je trouve qu'elle est mieux liée dans d'autres jeux narratifs que dans God of War où c'est un petit peu ah attention maintenant c'est le moment gameplay, ok on s'arrête, on va parler un petit peu, maintenant on s'arrête, on fait le gameplay. Formellement ça se ressemble beaucoup, mais je trouve que la sauce prend un petit peu moins bien. C'est pas que la sauce prend moins bien, c'est que ça coule de l'un à l'autre moins naturellement. Donc bon, voilà, c'est des critiques minimes. À part ça, le jeu reste complètement incroyable, quoi. Bon, bah voilà pour les jeux du moment et on va conclure avec quelques petites news qu'on va évoquer rapidement et pour être bien exhaustif dans nos discussions. Alors d'abord, les RTX 4080 sont arrivés ou sont en cours d'arrivage. C'est évidemment des cartes graphiques super puissantes. Le problème, c'est qu'elles sont énormes, super chères, etc. etc. Le truc que je retiens, c'est que le DLSS 3.0 qui rajoute des trames pour augmenter le nombre de FPS en plus d'augmenter la résolution, fonctionne très bien d'après les premiers tests. Donc ça, c'est une technologie qui va nous permettre d'avoir encore plus de fluidité et de complexité graphique, parce qu'au fur et à mesure qu'elle est adoptée par tout le monde, ça permet aux développeurs de consacrer plus de puissance au beau graphisme. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis Epic a dit que 50% des jeux annoncés sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et S, bien sûr, Xbox Series, utilisent l'Unreal Engine. Alors, visiblement, c'était déjà à 48 il y a quelques temps, mais j'avais dû rater l'annonce de 48, parce que la moitié des nouveaux jeux utilisent l'Unreal Engine. C'est incroyable. C'est complètement fou. Et ça donne un pouvoir à Epic dans l'industrie du jeu vidéo qui est notable, quoi. 50% des jeux qui utilisent leur moteur. Alors clairement, ils sont bien émerdés, mais bref, voilà. N'hésitez pas à commenter sur ces petites news que je passe rapidement. Je m'arrête quand vous me dites « Patrick, ta gueule, j'ai un truc à dire ».
Ah non, mais fonce.
Remedy a annoncé Control 2, qui sera un gros jeu. Ils ont un accord avec 505 Games, 505. J'ai l'impression que Remedy, ils sont un petit peu en train d'avoir les yeux un peu plus gros que le ventre. Ça me fait un peu peur. Ils font des super jeux, mais ils font des super jeux qui ne se vendent pas au niveau des ambitions qu'ils semblent afficher entre Control, Alan Wake, etc. Ouais. Bon.
Honnêtement, je suis assez contente parce que j'avais trouvé Control vraiment intéressant et ça me plaît l'idée de poursuivre mon incursion dans cet univers. Mais c'est vrai qu'ils ont prévu pas mal de trucs là quand même, parce qu'il y a le nouveau Alan Wake sur lequel ils bossent. Je sais plus s'ils sont impliqués dans les reboots de Max Payne, mais ça, j'ai vraiment... Ouais, si, oui. Ça fait beaucoup de trucs, quoi. Mais ce que j'attends le plus dans le cas, c'est clairement les reboots de Max Payne. Mais j'espère en tout cas qu'ils vont soigner ces autres sorties, quoi.
Il y a un jeu multijoueur basé sur l'univers de Control, les remakes de Max Payne, Alan Wake aussi, et Codename Vanguard, qui est un jeu free-to-play qu'il développe avec Tencent. Donc, pour un studio comme Remedy, ça fait beaucoup. On verra. The Witcher va sortir en version current gen, PS5 et Xbox Series, le 14 décembre. Ce n'est pas une news que j'aurais forcément évoquée si elle ne comportait pas des ajouts spécifiques d'amélioration graphique. En l'occurrence, il aura des améliorations graphiques comme du ray tracing, etc. Donc, si vous n'avez pas encore fait The Witcher, eh bien, The Witcher 3, ça sera l'occasion, avant le remake du premier, ça sera l'occasion de vous plonger dedans. Moi, peut-être que je le relancerai pour une, je sais pas, quatrième fois et que je m'arrêterai au bout de la première zone, parce que je n'ai jamais réussi à rentrer dedans. Mais peut-être que le ray tracing me motivera plus. Battlefield 2042 arrive sur Game Pass. Les classes reviennent parce que c'est un truc que l'absence de classe est un truc qui n'avait pas du tout plu aux joueurs, mais maintenant, à l'occasion de l'arrivée des classes, il arrive sur le Game Pass Ultimate, donc vous pourrez y jouer si vous avez le Game Pass. À côté de ça, je ne comprends pas comment il continue encore, mais Marvel's Avengers accueille un nouveau personnage, Captain America, The Winter Soldier. Quel est... On parlait de connaître l'histoire des contrats et des accords tout à l'heure dans le cas de World of Warcraft, enfin des opérations Blizzard en Chine. J'adorerais savoir pourquoi Crystal Dynamics, c'est ça, continue à développer des personnages pour Marvel's Avengers. C'est pas possible que les gens y jouent encore. Je
suis... Peut-être. Hors de mon champ de compétences.
Je comprends pas. Mais ils continuent à ajouter des nouveaux personnages. Ça doit être un accord avec Marvel où ils ont dit vous ajoutez des personnages tous les 3 mois pendant 3 ans, quoi. Moi, c'est le genre de truc que je me suis dit ils vont faire pendant 2 ans. Mais là, ça fait plus de 2 ans qu'il est sorti. Bref, continue. Et le pré-patch de World of Warcraft Dragonflight est arrivé. Et donc, on peut jouer les Draktyr, donc la nouvelle race et la nouvelle classe, l'évocateur. Je suis presque en train de me dire que j'ai envie d'y retourner pour checker. Ça fait quoi, 2 extensions que je n'ai pas joué. Je me demande... mais bon, le problème, c'est que je vous dis tout le temps, je n'ai pas assez de temps pour jouer à tout ce à quoi je veux jouer. Peut-être pas une bonne idée de me relancer dans World of Warcraft, mais peut-être.
Ah oui, j'avoue, là, c'est le tunnel, quoi.
Exactement. J'ai trouvé une édition collector de Dragonflight qui sort le 28, entre parenthèses. J'ai été obligé de l'acheter, je les ai toutes. J'ai toutes les collectors de World of Warcraft. Je joue même plus au jeu et j'ai quand même acheté la... Bon, j'ai envie un petit peu de tester Dragonflight, donc c'est pas complètement pour rien. Mais je suis prisonnier de ma série de boîtes de collectors. Quoi d'autre ? On continue. The Perceiver. Est-ce que vous avez vu ce trailer de The Perceiver, le percepteur ? Non, pas le percepteur, genre. celui qui perçoit les choses, qui vous ressent les choses. C'est un jeu chinois qui fait beaucoup penser à Ghost of Tsushima.
Ah oui, ça me revient. Oui,
ça te revient, j'ai pas vu moi.
C'est vraiment intéressant, je trouve, parce que c'est pas le premier hein, jeu chinois très ambitieux, triple A, console PC dont on voit un trailer. Mais c'est vraiment intéressant parce que, d'une part, on voit comment les Chinois, et c'est le cas avec le Japon, hein, je l'avais mentionné à plusieurs reprises, mais ça évoque un petit peu la culture chinoise, et donc c'est un moyen pour nous peut-être d'avoir un contact un petit peu, superficiel, mais tout de même avec la culture chinoise. Et puis, il faut avouer que le jeu en lui-même, c'est sacrément beau, ça a l'air sacrément impressionnant.
Les combats ont l'air très chouettes. Ah, ouais, ça donne vraiment envie. Hein. Le trailer qui est sorti il y a quoi, 4-5 jours, ouais, donne vraiment envie, je trouve.
Les combats ont l'air hyper dynamiques. C'est du. Enfin, il y a plein de choses intéressantes et tu sens la proximité avec les cultures asiatiques, japonaises, forcément. Mais tu sens aussi les spécificités chinoises. Je suis très curieux. J'espère que parmi tous ces jeux, genre les Wulong, les Wolong, les jeux comme ça, j'espère qu'ils seront bien. Comme ça, je pourrais explorer cette...
Il est magnifique, en tout cas. Ouais.
Ah, il est super beau, ça y est.
Ouais, ça donne hyper envie.
Ouais. Bon, voilà pour Perceiver. Il y a des rumeurs que je mentionne en une seconde parce que c'est vraiment des rumeurs d'un MMO Horizon Zero Dawn développé en collaboration avec NCSoft. Je suis un peu... Je ne sais pas si j'ai besoin d'un MMORPG Horizon, parce que Horizon, c'est déjà, enfin je dis Horizon Zero Dawn, c'est Horizon tout court, c'est déjà en quelque sorte un MMO, c'est tellement vaste comme monde ouvert, c'est plus ou moins un MMO, donc on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'une autre version ? Peut-être que c'est un jeu mobile, je ne sais pas si ça m'attire plus. Mais... et puis, une autre mention sur l'industrie, Ubisoft et Riot Games sont en train de forger un partenariat pour partager des données critiques pour l'amélioration de la modération. C'est une tendance qui pourrait être intéressante, surtout si elle se développe au-delà de ces deux éditeurs, même si évidemment ils sont très importants. Peut-être qu'il y aurait des moyens d'améliorer la modération en mettant en commun les données de différents éditeurs et la manière dont ils gèrent ces choses-là. Alors évidemment, il faut que ça soit fait dans le respect des données privées, mais c'est une initiative intéressante. Et puis, on a eu des informations du côté de Microsoft avec Phil Spencer qui a fait une longue interview chez The Verge, que je vous encourage à aller écouter, mais où on a surtout des informations sur le fait, la raison pour laquelle la Xbox, comment elle s'appelait ? Projet ? Ah, vous savez, la Xbox de streaming.
Alors, je suis en train de regarder. Xbox Keystone ?
Keystone, voilà, c'est celle-là, j'oubliais. La raison pour laquelle elle n'a pas vu le jour, c'est qu'elle était trop chère. Ils n'arrivaient pas à en fabriquer une en dessous des $100. Donc, visiblement, si elle sort un jour, elle coûtera moins de $100. Donc, c'était le prix qui était le vrai facteur qui les a arrêtés et pas la technique. Et à côté de ça, il y a plein de trucs cool qui arrivent dans le Game Pass. Notamment Gungrave Gore, que je suis très curieux d'utiliser. C'est ce jeu dans les trailers. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans les trailers, c'est quoi ? C'est Badass Guns, Destroy, Guns, machin. Et ça a l'air plutôt sympa comme gameplay.
Enfin, une grosse vibe Devil May Cry en regardant de loin. Enfin, j'avais pas vu le trailer, ouais, mais une fois, pourquoi pas.
Moi, je trouve ça... je ne sais plus comment ils le mettent dans le trailer. C'est Guns... Badass, bon, je sais plus. Ça a l'air plutôt marrant. Et puis, il y a aussi Darktide qui arrive sur PC et Dune Spice Wars en Early Access, si je ne me trompe pas, le jeu de RTS. Ah, je sens que ça plaît à Lou.
Dune, forcément, oui, je vais regarder. Je suis assez curieux. J'ai un peu peur en même temps. Je sais pas trop. Je suis curieux.
Est-ce que tu es curieux parce que c'est Dune ou est-ce que c'est parce que c'est l'un des premiers jeux de RTS, de l'histoire du jeu PC?
C'était même le premier, je crois, de toute façon, il me semble, à l'époque. Ça rend forcément curieux aussi par rapport à ça, mais j'adore l'univers de Dune. Hein. C'était un des romans, du coup, de mon adolescence, bon, de la fac, on va dire, de ma période d'étudiant. Et c'est un univers que j'aime beaucoup et qui était sous-exploité, je pense, au niveau du jeu vidéo, alors qu'effectivement, il y avait des jolies choses à faire. Et là, le fait que le film ressorte, ça permet un petit peu de remettre les choses en avant. Et je suis assez content, du coup, de revoir ces adaptations. D'ailleurs, de manière générale, je trouve que la littérature est trop sous-exploitée dans le jeu vidéo.
Et écoute, ça sera peut-être un début de changement. Dune Spice Wars, il est dispo depuis aujourd'hui sur PC. Gungrave Gore, il arrive le 22 sur toutes les plateformes Game Pass, donc Cloud Console et PC. Il y a d'autres jeux, je vous laisserai aller voir la liste et découvrir ce que sont Lapin et Norco, deux jeux qui sont dispo aujourd'hui aussi. Et entre parenthèses, si vous n'avez pas Apple TV Plus et que vous avez le Xbox Game Pass Ultimate, eh bien vous avez 3 mois offerts avec le Game Pass Ultimate à Apple TV Plus. Il y a aussi Apple Music, mais Apple TV Plus, il y a des trucs super bien. Donc allez y jeter un coup d'œil. Ne ratez pas les 3 mois offerts parce que vraiment Apple TV Plus, c'est super. Donc je vous le recommande. Il y a des séries vraiment de qualité. On conclut avec le fait que Immortality, dont on parlait tout à l'heure, est disponible avec votre abonnement Netflix. Décidément, on est abreuvé de plein de choses incluses et gratuites. Donc Immortality est disponible sur iOS avec votre abonnement Netflix. Et il y a un trailer pour Dragon Age, toujours chez Netflix, l'adaptation du jeu qui arrive en série animée chez Netflix, qui arrive là bientôt, que je dise pas de bêtises, je regarde quand ils arrivent, je sais plus. C'est très bientôt. Moi, j'ai pas été super convaincu. Il y a eu tellement d'adaptations de jeux vidéo moyennes. Il y en a eu des biens, mais il y en a eu aussi des moyennes. Celle-là, je suis... Je sais pas.
Et puis, oui, quand on regarde la liste délirante de toutes les adaptations prévues sur Netflix, là, c'est... Moi, je trouve ça plus flippant qu'autre chose.
Ils vont à fond dans le jeu vidéo, mais à fond. En fait, c'est Polygon qui a fait une liste de toutes leurs adaptations, que ce soit en animation ou en live. Assassin's Creed, Beyond Good and Evil, Bioshock, Castlevania, des trucs en plus, Devil May Cry, Dragon Age Absolution, Dragon's Lair, Far Cry 3, Gears of War, Horizon Zero Dawn, Pokémon, Sonic Prime, Tom Clancy's The Division, Tom Clancy's Splinter Cell et Tomb Raider. Alors, je sais qu'ils peuvent produire beaucoup chez Netflix, mais là, ça fait vraiment beaucoup, quoi.
Bon, surtout dans toutes ces adaptations, combien de trucs médiocres, un peu comme Tekken. Tu connais mon amour de Tekken, mais bon, le Tekken Bloodline était pas ouf, honnêtement.
Alors, c'est
rien de dire, oui. J'adorerais être optimiste et me dire, ok, il y aura peut-être un petit miracle à la Arcane qui contentera tout le monde. Ah ouais. Mais là, j'avoue, enfin, tu vois, comme tu te demandais, est-ce qu'on a besoin d'un MMO Horizon ? Est-ce qu'on a besoin de 15 adaptations Netflix de jeux vidéo ? Je ne sais pas.
Même, tu vois, un truc comme Castlevania, qui est bien, objectivement, c'est une bonne, une adaptation originale, intéressante, c'est bien. Mais c'est... Alors, encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai moins de temps, mais il y a tellement de choses mieux que les trucs qui sont juste bien, t'as plus le temps de t'y consacrer. Donc,
Ouais, c'est terrible.
Et ben voilà pour les infos rapides. On vous en a donné une tripotée là-dedans. J'espère qu'il y aura eu des choses intéressantes et dont vous profiterez, comme cet abonnement à Apple TV+. Là, il y a des trucs vraiment cool à faire, hein, à regarder au hasard. Regardez Severance, ça vaut vraiment le coup.
Ah oui, c'est tellement bien.
C'est bien, hein.
Mais j'adore, ouais.
C'est le service de streaming le moins mis en avant et qui a pourtant des séries de super qualité. Mais donc, on arrive au bout de cet épisode. Merci Lou, merci Julie d'avoir été avec moi. Avant qu'on se quitte, évidemment, vous me dites où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Lou. Où es-tu généralement ? West France, Gamekult, Twitter, dis-nous tout.
Alors, on me trouve chez Gamekult, également surtout sur West France Gaming, et puis Twitter @AlexLeServeur, sur Twitch @AlexLeServeur, et puis sur YouTube AlexLeServeur, mais c'est plus simple de me trouver avec mon nom, même s'il n'est pas facile, Lou Lassina Foubert, ma chaîne YouTube où il y a des let's play, et notamment celui de Pokémon version écarlate qui va arriver, du coup la Solus, tout ça. Et le mot de la fin, très important, surtout pour Julie, que Dieu vous bénisse.
Et toi aussi, Lou, et toi aussi, et qu'il bénisse tes participations salutaires au rendez-vous jeu. Julie, où retrouve-t-on ton auguste présence sur Internet ?
Alors, contrairement à Lou, j'ai pas un truc ultra cohérent, malheureusement. Donc, c'est Hélène Ripley sur Twitch, ICTH sur Twitter. Je viens de me créer un compte Mastodon, mais j'ose même pas vous balancer l'URL tellement c'est n'importe quoi.
Attends,
je te suive sur Mastodon.
Mais oui,
ah, ok, je suis en train d'essayer de comprendre le truc parce que moi, j'ai besoin d'avoir un endroit de repli pour contempler Twitter brûlé.
On en a tous besoin.
Ouais, voilà, c'est ça.
Faut qu'on s'y retrouve.
Donc, je crois que c'est jlb@putix.com.
Mais pourquoi
parce que j'ai pris le premier serveur que
JLB.
J'ai trouvé.
Ah non, mais si, ok, JLB, je comprends. Ok.
Ouais, okay. Ça c'est mes initiales.
Putix. Point quoi ?
Point com.
Putix, non, mais P-U-T-I-X, c'est ça ?
P-E-W-T-I-X.com. C'était un des serveurs dispo.
D'accord. Julie Le Baron.
Je ne comprends
au moins, c'est
pas
grand-chose
à Mastodon.
Ok, je te suis désormais. Mais au moins, c'est JLB.
Trop cool, je vous suivrai aussi.
Idem.
On connaît JLB, on comprend pourquoi. C'est pas ICTH ou Hélène Ripley, tout ça. Ok,
oui,
JLB,
c'est vrai.
Très bien. Très bien. Super. Et le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission, pour toi comme pour Lou. Vous pourrez retrouver ça facilement. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Et un petit peu partout, vous retrouvez les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission. Il y a par exemple le lien vers le Discord où vous pouvez me retrouver. Et on s'amuse beaucoup entre gens plutôt sympathiques. Si vous fuyez Twitter, par exemple, ou si vous voulez... En parallèle de Twitter, un truc où vous pouvez vous détendre, vous pouvez nous retrouver sur le Discord. Il y a aussi sur Twitch, tous les jeudis midi et tous les mardis midi pour le rendez-vous tech, l'émission en live. Et vous avez aussi les replays sur YouTube, sur une chaîne particulière, lien dans l'émission. Et enfin, patreon.com/rdvjeux pour soutenir le rendez-vous jeu financièrement. Vous aurez plein de trucs cool, plein de petits bonus et surtout la satisfaction de soutenir un créateur que vous appréciez. J'espère que vous appréciez cette émission. A priori, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez bien. Donc, si vous écoutez depuis un moment, si ça vous plaît, bah, allez voir sur patreon.com/rdvjeux et vous verrez si vous êtes intéressé. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir écoutés et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.